Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Victoire obligatoire, quelle que soit la manière, selon le sélectionneur.
On peut disserter, il n'y a qu'une chose.
Son équipe n'a pas le droit à l'erreur.
C'est le résultat.
Encore faudrait-il pour cela qu'il commence à jouer au football, ce qui n'a pas vraiment été le cas.
Vous suivez Au bout du foot avec Malik Eudy et toute sa team. Chaque lundi, 20h30, 22h, sur monparisfm.com.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes sur Mon Paris FM. Il est 20h32 minutes. Merci d'être avec nous au bout du foot en 1h30 de foot. Aujourd'hui, en l'actualité l'oblige, nous allons parler de divers sujets, mais on va bousculer un peu le conducteur justement de cette émission, tout simplement parce que du côté d'Abidjan, du côté de la Côte d'Ivoire, la CAN 2023 qui se déroulait donc aujourd'hui, notamment avec le Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale et Nigeria, Guinée-Bissau, se sont soldés respectivement avec une victoire du côté de la Guinée équatoriale qui a tout simplement dominé, écrasé,
étriqué,
giflé l'équipe de Côte d'Ivoire, 4-0. Également le Nigeria qui s'est imposé face à la Guinée-Bissau, 1-0. On y revient dans quelques instants. Les amis, bonsoir à vous. Salut Darius.
Salut Malik.
Bien.
Super et toi?
Ça va super bien. Salut Alfred.
Salut.
T'as une petite voix, Alfred.
Non, ça va.
Ça va? Chakenza, bonsoir.
Bonsoir, Malik.
Bonsoir, Ibrahima.
Bonsoir.
Bonsoir à vous.
Bonsoir, Malik.
Comment ça va, les amis? Bien ou pas?
Ça va très bien.
Ça va très bien. Bah, écoute,
ça va. Même si on a le moral dans les chaussettes, mais on se doit d'être bon supporter.
C'est quoi? T'es supporter la Côte d'Ivoire, c'est ça?
Bah oui.
Ah d'accord, ok.
Non, mais si toi tu l'es pas, moi non, je le suis, non, je l'assume quoi qu'il arrive.
Moi je suis journaliste.
Même si j'ai le moral de la chaussette,
moi je suis
supporter, vraiment.
Je suis supporter.
Après, je suis vain, donc je me dois vraiment, même si l'équipe n'est pas bonne en ce moment, mais je me dois d'être fier quand même.
Bon, on en reparlera dans tous les cas. La Côte d'Ivoire s'effondre au stade des Bampé devant son public et c'est peut-être l'élimination justement pour cette équipe ivoirienne. Guinée équatoriale 4, Côte d'Ivoire 0, un pays organisateur qui passera pas la phase des poules cette fois-ci. Très certainement, deux défaites consécutives face au Nigeria et à la Guinée équatoriale. Il faut attendre la fin des trois journées de poule pour connaître la situation des éléphants. Mais en tout cas, c'est très, 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 très mal parti. Au bout du foot, revient dans quelques instants sur cet épisode justement de cette CAN. Tout de suite et maintenant, le sommaire.
Au menu d'Au bout du foot de ce 22 janvier 2024, la question au bout du foot. Cristiano Ronaldo, double lauréat au Globe Soccer Awards, a loué le bon niveau du championnat saoudien de football en affirmant que la dite ligue est beaucoup plus compétitive que la Ligue 1. Une déclaration controversée qui suscite le débat. Qu'en est-il de l'avis de nos consultants? D'accord ou pas d'accord avec CR7? 30 secondes chrono. Quels sont les faits majeurs football de nos chroniqueurs en 30 secondes? La CAN 2023, commencée depuis le 13 janvier dernier en Côte d'Ivoire. Les premiers qualifiés pour les huitièmes de finale sont désormais connus. Commentaires, analyses, décryptage de nos consultants. La Coupe de France, retour sur les performances avec Sochaux qui élimine Reims, le doublé de Kylian Mbappé, l'élimination de Nantes au profit de Laval, la difficile victoire des Lyonnais contre Bergerac et l'élimination de l'Olympique de Marseille par le Stade Rennais. Laquelle de ces affiches a retenu votre attention et pourquoi? La Bundesliga, le Bayern Munich, relégué provisoirement à 6 points du Bayer Leverkusen avec un match en moins. Les hommes de Xabi Alonso, l'entraîneur, sont quant à eux invaincus avec 15 victoires, 3 nuls en 18 journées de championnat. Le Bayern de Tourelle et Harry Kane a-t-il d'ores et déjà perdu le titre? Peut-on s'attendre à un nouveau champion en Bundesliga? Nos consultants vous répondent. Au bout du foot, l'émission 100% foot de Mon Paris FM en collaboration avec Le Quotidien du Sport. Bienvenue.
Merci Jason pour ce sommaire, riche sommaire pour ce Au bout du foot 22 janvier, comme vous en avez l'habitude, les amis, on va commencer justement par la question au bout du foot. C'est parti, jingle. Les amis, vous l'avez entendu dans le sommaire, hein, CR7, double lauréat au Globe Soccer Awards, a loué le bon niveau du championnat saoudien de football en affirmant que la dite ligue est beaucoup plus compétitive que la Ligue 1. Une déclaration controversée qui suscite le débat. Qu'en est-il de l'avis de nos consultants autour de la table ? D'accord ou pas d'accord avec CR7, mon cher Abou ?
Absolument pas d'accord avec Cristiano Ronaldo. Malgré tout le respect qu'on a pour le joueur, l'immensité de sa carrière, mais comme quoi l'argent fait dire tout et n'importe quoi. Moi, j'étais en Arabie Saoudite là pendant 3 semaines. J'ai suivi un peu de près le championnat saoudien. J'en ai discuté avec des gens aussi qui sont là-bas du championnat. C'était bien avant la déclaration de CR7, mais elle n'est pas du tout au niveau de la Ligue 1, la Ligue saoudienne. Et même Émeric Laporte, je crois qu'il fait une sortie tout contraire ce week-end, pour dire que ce qu'il demande n'est pas du tout respecté par les dirigeants là-bas. Donc, nous,
mais là, on parle du niveau plutôt footballistique. Hein. Oui, après, mais tout ce qu'il y a autour.
Oui, mais même le niveau footballistique, c'est effarant de dire ça quand tu vois la différence même qu'il y a entre le premier qui est Al Hilal et Al Ittihad, l'équipe de Karim Benzema. Quand tu vois l'écart de niveau, c'est incroyable. Donc non, le niveau de la Ligue saoudienne n'est pas au niveau de la Ligue 1. Mais quand on est gracieusement payé comme M. Cristiano Ronaldo, je peux comprendre qu'on fasse ce genre de déclaration.
Alfred, donne ton avis sur la question.
Je rejoins facilement.
Dans le micro, s'il te plaît, Alfred.
Je rejoins facilement Abou, parce qu'en fait, le championnat saoudien, c'est juste des fonds. Ce n'est pas le même niveau. Donc, quelque part, tout ce qu'il dit, c'est des priorités qui vont là-bas. Donc, quelque part, je comprends bien qu'il veut dire ça. Les gens, ils vont là-bas pour l'argent. Mais sinon, voilà, ce n'est pas du tout comparable. Pas du tout.
Darius ?
Je suis très d'accord avec ce qui est en train d'être dit. J'étais un peu confus de voir quand même cette déclaration. Enfin, je pense que lui-même doit se mentir. Enfin, c'est totalement biaisé. La Ligue 1, c'est quand même, même si voilà, c'est assez descendu en Europe, que c'est une Farmers League, je sais pas trop quoi, c'est quand même une ligue avec un très bon niveau, beaucoup d'intensité, des bons joueurs, beaucoup de bons joueurs qui sortent de Ligue 1 et qui vont ensuite dans d'autres championnats en Europe et qui se prouvent, alors que la Ligue saoudienne, c'est l'inverse, c'est des joueurs qui sont déjà prouvés, qui vont prendre un énorme chèque et qui au final se reposent un peu sur leur laurier. On voit plein de joueurs qui ont régressé depuis qu'ils sont arrivés en Arabie Saoudite. Benzema, c'est un très bon exemple, il va même plus à l'entraînement, à peine 6 mois arrivé, il veut déjà repartir. Donc ouais, je pense qu'il se ment totalement à lui-même. Je sais pas ce qu'il a essayé de nous faire croire, mais c'est ridicule.
Ibrahima, ton avis sur la question?
Je regarde pas forcément le championnat saoudien tous les week-ends, mais des peu de matchs que j'ai vus, non, on peut pas. Même si on a vu cet été qu'il y a pas mal de grands joueurs du top 5 des championnats européens qui ont rejoint le championnat saoudien, à aucun moment on peut comparer ça à la Ligue 1. Même si le niveau de la Ligue 1 est très faible, on peut l'admettre, mais le niveau saoudien, c'est l'équivalent de la Ligue 2, sauf que vous rajoutez des stars, sincèrement. Pour les équipes que j'ai vues jouer, le niveau est franchement pas fou. Et il y a surtout un écart de niveau, comme le disait Abou, assez flagrant, entre Al Hilal, il me semble, l'équipe qui est en tête du championnat, et les autres équipes. C'est un peu le jour et la nuit, donc non, on peut pas comparer la Ligue 1 à ce championnat-là.
Chakenza, ton avis sur la question?
Ouais, c'est pas comparable. La Ligue 1 est au niveau top, comparé vraiment à la Ligue saoudienne. Parce que là-bas, c'est une retraite dorée. Tu vois. Les joueurs, ils se permettent vraiment de faire ce qu'ils veulent. Un Cristiano Ronaldo 7, même si il arrive à submerger le championnat, mais c'est pas comparable. Parce que la Ligue 1, vraiment, il y a des talents et tout ça. Au niveau des matchs, au niveau des équipes, bon, c'est... Il n'y a rien à comparer. Peut-être ça peut arriver que vraiment il peut rentrer dans des propos vraiment un peu bizarres et tout, disproportionnés à son égard. Oui, il peut se la permettre parce que c'est une star mondiale, mais ce n'est pas du tout comparable.
Ton avis, mon cher Elad, bienvenue.
Merci. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, je pense qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce que Cristiano Ronaldo a dit. Ça faisait un moment qu'il disait, au bout de 6 mois à peu près, ou 8 mois à peu près, quand il jouait là-bas, il avait dit qu'il fallait faire attention, que en gros, la Ligue saoudienne se rapprochait des meilleurs championnats. Il disait que d'ici 5-10 ans, lui-même le disait, d'ici 5-10 ans, il fera partie des 5 meilleurs championnats du monde. Du coup, moi, je pense que c'est plus dans le futur qu'il disait ça. Et maintenant, quand tu vois certaines équipes, c'est vrai que ça peut être semblable, parce que là, par exemple, vous dites qu'Al-Hilal, son premier, le reste, c'est ils sont tous très derrière. Moi, je pense pas. Il y a Al Nassr qui suit bien quand même deuxième. Et c'est comme si on peut dire en Ligue 1, il y a le PSG. Après, le reste, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien du tout. on regarde en show. Parce que, ok, c'est bien, c'est entre joueurs de Ligue 1 ou entre équipes de Ligue 1, un peu, tout le monde bat un peu tout le monde, mais dès que ça sort de là et que ça va jouer en Europe contre des équipes beaucoup plus faibles où on se prétend beaucoup plus fort qu'eux et leur championnat aussi beaucoup plus fort, mais on regarde pas ces championnats. C'est ça la vraie question. On regarde même pas ces championnats, on se dit plus fort que eux. Et là, logiquement, on se dit encore supérieur à la Ligue saoudienne. Moi, je pense qu'actuellement, oui, mais de peu. On n'est pas très loin. Voilà. Je pense pas qu'il y ait une immense, il y a un immense écart.
Non, ça, c'est ton avis. En tout cas, les autres aussi ont donné leurs avis. Hein. Tu voulais compléter quelque chose, Alfred, rapidement ?
Mais de façon nette, la Ligue saoudienne, c'est juste, elle se prépare pour organiser la Coupe du Monde. C'est tout. Elle attire du monde, c'est tout. Hein. Dans le futur, c'est
non,
ce
mais elle attire du monde, mais elle attire du beau monde aussi, hein, les amis. Hein, cela dit, il y a pas mal de références quand même qui sont sur place.
C'est comme les débuts. C'est comme les
après,
débuts.
Après, peut-être qu'il faut lui donner du temps.
Oui, le temps, ça, je suis là que ça. Je partage ton avis. Maintenant, comme je dis, il doit pas avoir de comparaison vis-à-vis de ça parce que le championnat, la Ligue 1, elle existe il y a très longtemps. Mm-hmm. Ceux-là, ils sont en début, ils veulent se faire connaître. Donc quelque part, ces jugements-là, c'est pas pour moi. Il y a pas lieu d'avoir un débat sur ça. Mm-hmm. Voilà, Cristiano Ronaldo, s'il avait pas eu cette proposition, il serait resté en Europe. Donc pour moi, ces comparaisons-là, non. C'est juste pour l'argent.
Merci Alfred. Tout de suite et maintenant les amis, on va basculer dans notre 30 secondes chrono. Quels sont les faits majeurs football de nos chroniqueurs en 30 secondes chrono? C'est parti. On va commencer par toi mon cher Eladj.
Bah moi c'est monsieur Nsou qui m'émerveille. Franchement c'est le meilleur buteur de la CAN. Et je le suivais de près déjà depuis un moment. Voilà, équato-guinéen. Et voilà, il était très bon. Et je voyais ça depuis le début. Et là, franchement, aujourd'hui, il a encore confirmé avec un doublé. Et voilà, moi, je pense que... Parce que beaucoup de gens ne le voyaient pas dans les meilleurs buteurs. Et je pense qu'aujourd'hui, il a confirmé une place. Du coup, c'est mon petit coup de cœur.
30 secondes chrono pour toi, Abou.
Moi, mon 30 secondes chrono, c'est sur les faits de racisme qu'il y a dans le football. On a vu Mike Maignan ce week-end sortir du terrain contre l'Udinese parce que victime de cris racistes. On a vu également Walid Regragui victime d'insultes racistes via les réseaux sociaux. Pareil pour Chancel Mbemba, victime d'insultes racistes via les réseaux sociaux. Voilà, et moi, je trouve ça inacceptable. Je trouve que c'est choquant qu'en 2024, on en soit encore à ce genre de choses. On a vu le maire de l'Udinese qui va remettre une médaille à Mike Maignan, mais c'est pas suffisant de remettre une médaille. Il faut faire beaucoup plus que ça.
Merci Abou, hein, je suppose qu'on est tous d'accord là-dessus, on n'a pas besoin de rebondir. Mon cher Darius, ton 30 secondes chrono.
Donc moi je vais parler un peu de la première ligue, parce qu'on ne va pas l'aborder aujourd'hui. Donc il n'y a eu que deux matchs, mais encore une fois énormément de buts, 10 buts en deux matchs. Donc 5-0 de la part de Arsenal et 3-2, donc victoire de Brentford contre Nottingham Forest. Moi j'aimerais bien parler de Arsenal, parce que forcément je suis un fan. Là récemment c'était très très dur, donc c'était une victoire en 7 matchs. Et là donc ils rebondissent magnifiquement bien avec un 5-0 contre Crystal Palace à domicile. Ce qui manquait à Arsenal récemment c'était les buts. Et là je pense qu'ils se sont bien rattrapés, on espère que ça va continuer comme ça.
Et c'est vrai que le Boxing Day a été très très difficile hein, pour très les Gunners difficile. Justement qui ma foi sont en train de remonter petit à petit la pente. 30 secondes chrono mon cher Alfred.
Le fait, c'est surtout la défaite du Bayern face à Brême. Les choix de l'entraîneur au niveau du positionnement, mettre, ma foi, Kingsley-Coman à droite et Leroy Sané à gauche, mettre le Goretzka remplaçant. Donc, quelque part, franchement, c'est vraiment tout, malgré tout ce qu'ils ont fait, je pense que c'était pas une défaite que le Bayern devait avoir pour le championnat. Et ça, je le dis de façon nette, s'il y a deux paires de suite, je pense que l'entraîneur va devoir partir.
On précise, hein, l'entraîneur c'est Tourelle, hein, l'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain. 30 secondes chrono, Ibrahima.
Alors moi je voulais parler de ce qui s'est passé lors du match entre le Maroc et la RDC hier. Alors c'est à la base j'avais l'impression que c'était un incident comme on peut en voir tous les week-ends sur un terrain de foot. Et puis c'est parti totalement en cacahuète, notamment avec des commentaires sur des réseaux sociaux qui ont envenimé certaines choses, qui ont laissé paraître certains mots que certains auraient dit à d'autres. Et c'est tout ça pour dire qu'à un moment donné, j'ai du mal à comprendre que des gens qui soient sur un terrain de foot puissent être influencés par ce qui se passe sur des réseaux sociaux, sachant qu'ils savent très bien ce qu'ils se sont dit sur le terrain. Et que je pense qu'il faisait chaud. Les Marocains, ils pensaient peut-être qu'ils ont été déçus par la défaite. Les Congolais aussi.
Non, par le nul.
Par le match nul entre les deux équipes. Mmh. Et oui, enfin, avec l'adrénaline, tout ça, ça peut arriver qu'il y ait quelques chamailleries, mais... De là se laisser influencer par ce qui se passe sur les réseaux sociaux et le transposer sur le terrain, enfin pas sur le terrain mais plutôt en zone mixte, je trouve ça assez Nul.
T'as fait plus de 30 secondes là pour le coup. Parce oui, que moi-même, j'ai été perturbé. Qui souhaite réagir? Parce qu'Abou aussi l'a évoqué hein, rapidement. C'est bon?
Non, mais c'est surtout en fait pour moi les principaux fautifs, c'est les acteurs, enfin le coach et les joueurs, ils sont jamais à réagir comme ça. Que ce soit une question de réseaux sociaux ou non, c'est honteux et je trouve que ça fait beaucoup de mal à la CAN, trophée. Enfin, ça va encore faire du bruit, ça va encore donner une raison aux gens de réagir, de polémiquer et tout, alors qu'au final.
Non, c'est vrai que c'est sur les réseaux, hier, c'était assez chaud, hein, même aujourd'hui. Hein,
bien sûr.
J'ose même pas vous dire ce que j'ai pu entendre ou lire ça et là, mais c'est véritablement dommage. Hein. Moi, je veux dire, quand on est acteur et qu'on a la chance de pratiquer ce sport-là et qu'on on porte le maillot de son pays. Je pense qu'il faut le représenter dignement, quelles que soient les circonstances. L'entraîneur, le joueur ou les joueurs, dans tout ça, ce sont des éducateurs, ces personnes-là. Donc il faudrait qu'à un moment donné, on a beau parler de l'ambiance, de l'adrénaline, de la chaleur, de tout ce qu'on veut, de la défaite, du match nul. On a bien être dessus, certes, mais il faut rester toujours focus parce qu'il y a 50 caméras autour du stade. Il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. C'est très, très important. C'est trop facile de venir s'excuser à chaque fois après. Et puis, ça ne donne pas une bonne image, tout simplement, du football. C'est la même chose hein, qu'on a pu observer ce week-end, notamment du côté de l'Italie. Tu l'as évoqué avec Mike Maignan. Mon cher Cheikh Kenza, ton 30 secondes chrono, c'est parti.
Mon 30 secondes chrono, vraiment, c'est la défaite de la Côte d'Ivoire. Déjà sorti du premier tour à la maison, avec toute cette fête, toute cette mascarade et tous les moyens qui ont été mis en place. C'est un échec vraiment, il va falloir penser les pleurs, réformer le football et organiser vraiment un vrai débat autour du football vraiment, autour de la sélection et du football local pour essayer vraiment de trouver vraiment ce qui ne va pas. Et moi je pense que là vraiment je suis déçu.
Merci Cheikh Kenza, tu me tends la perche, hein. La CAN 2023, on en parle justement. Oui, la CAN 2023 connaît des surprises. Hein. La Côte d'Ivoire s'effondre au stade des Bampés devant son public et est peut-être éliminée de sa propre CAN. Guinée équatoriale 4, Côte d'Ivoire 0. Le pays organisateur ne passera peut-être pas à la phase de poule. La faute à deux défaites consécutives face au Nigeria et à la Guinée équatoriale. Il faut attendre donc la fin des 3 journées prochaines de poule pour connaître la situation des éléphants de Côte d'Ivoire. Au bout du foot, revient justement sur ce score et cette désagréable surprise infligée aux Ivoiriens avec Alfred, avec Darius, avec Cheikh Kenza, avec Ibrahima. Eladj et Abou ici présents. On va également faire intervenir notre ami Stéphane Desenclos du quotidien du sport. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Malik, bonsoir à tous.
Alors Stéphane, t'as vu le match?
Ouais, j'ai vu le match.
Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, on rappelle aussi hein, que le Nigeria a battu la Guinée-Bissau aujourd'hui même aussi, hein, parce que les deux matchs se jouaient en même temps, 1-0. Et la sensation justement vient du côté du stade des Bampés avec la victoire des Équato-Guinéens, 4-0, je dis bien 4-0. Qu'est-ce que tu en as pensé du match, mon cher Stéphane?
Bah, j'en ai pensé que pendant déjà 45, je pense que pendant 50, au moins 50 minutes, quoi, je ne sais pas exactement, mais pendant un bon moment, j'ai été trouvé plutôt bon, les Ivoiriens. Malheureusement, pas efficace. Et puis, en plus de ne pas être efficace, pas de chance non plus, parce qu'ils ont quand même deux buts qui sont refusés pour des hors-jeux qui y étaient, hein, mais qui jouent à 10-15 cm. Et je trouve qu'il y a eu des choses pas mal. Hein, Nicolas Pépé, par exemple, fait une première mi-temps superbe. Ils font des bonnes choses. Et après, c'est incroyable cette fébrilité. Cette fébrilité quand même assez incroyable, quoi, pour des joueurs qui jouent tous dans des grands clubs ou qui ont joué quand même dans des grands clubs. Donc pour beaucoup d'ailleurs des clubs européens, c'est incroyable de voir de les voir s'exploser comme ça en fin de match, parce que tous les buts sont importants. Peut-être vous allez en parler par rapport au fait d'être meilleur troisième ou d'être dans les meilleurs troisièmes. Tous les buts sont importants et tout, quoi. Une défaite 1-0 et une défaite 4-0, ça a strictement rien à voir, quoi. Ça, donc c'est vraiment c'est incroyable.
Là, on peut parler d'humiliation, hein, de douche froide, de tout ce qu'on veut.
Ouais.
Hein.
Ah, tout à fait. Et puis malgré tout, j'ai entendu tout à l'heure encore quelqu'un du plateau, je sais pas qui, dire ils sont éliminés des premiers tours. Et non, justement non. Ils ont quand même encore.
Justement, on va l'évoquer dans quelques instants, voir les possibilités, ouais, de qualification des éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un calcul qui est tellement compliqué. Je te laisse te concentrer pour bien nous expliquer tout ça. Le temps pour moi de faire le tour, demander les impressions. Darus, t'as vu le match?
Non, bah, j'ai pas pu voir le match, malheureusement. J'étais dans les transports pour venir ici. Mais donc, je regarde un petit peu les statistiques et les compositions et tout, et je suis très étonné du score. Mm-hmm. Quand on voit 4-0, on s'attend à vraiment une grosse domination. Pourtant, je vois que la Côte d'Ivoire a la possession, je vois qu'ils ont plus de tirs, plus d'occasions nettes. Donc, je suis un peu confus, j'ai hâte de me le revoir.
Ça ressemble à un véritable match de coupe, hein, tout simplement.
Ouais, exactement.
Voilà, et puis c'était un jour sans, tout simplement. Mon cher Alfred, j'ai envie de te donner la parole en dernier parce que dans les précédentes émissions spéciales qu'on a pu faire, tu avais tiré la sonnette d'alarme, hein, dès le départ déjà, hein, s'agissant de cette équipe ivoirienne qui n'était pas du tout inspirée, et au niveau de son entraîneur et au niveau justement de certains joueurs. Je te laisse le temps justement de peaufiner encore ton propos. Je vais interroger notre ami qui a l'air tellement abattu, Chekenza.
Ouais, sincèrement, je suis abattu dans l'âme, abattu un peu. Mais après, je me dois aussi d'être vraiment, d'être partiel en tant que consultant. Ça aussi, c'est un devoir, je me dois aussi de l'être aussi. Mais en tant que supporter, oui, c'est aussi une désillusion. Quoi qu'il arrive, qu'on ait vraiment dominé ce match à travers tous les compartiments et autres. Mais le plus important, c'est de gagner aussi. Parce que du beau football, ça rime aussi avec les buts, ça rime aussi avec une cohésion d'équipe. Je pense que cette équipe est un peu penchée au niveau vraiment du mental. Parce que déjà, quand on est mené 1-0, il y a un fait de jeu vraiment qui attire mon attention. C'est du fait que l'entraîneur, déjà, il attrape la tête. On sent un entraîneur vraiment qui est absoudi. On sent un entraîneur vraiment qui est abattu, vraiment. Parce que là, ton équipe est menée 1-0 à la première mi-temps. Vraiment, on sent un entraîneur vraiment qui a lâché un peu le pédale, qui n'est pas vraiment concerné par la suite du match. Et ça a un peu joué en défaveur du moral de ses joueurs, qui ont aussi suivi aussi un peu les signes de l'entraîneur, qui ont lâché prise. Donc, à un moment donné, oui, c'est normal. Moi, je pense que il n'y a pas que l'équipe nationale à revoir, c'est tout le football vraiment local, au niveau de l'académie et tout ça, et au niveau vraiment de déjà aussi cultiver une culture de la gagne, donner un peu vraiment du mental à nos futurs vraiment talents, c'est-à-dire déjà essayer de les forger un peu.
Ibrahima, ton sentiment par rapport à cette défaite ivoirienne, 4-0 en face à la Guinée équatoriale, et la Côte d'Ivoire est quasiment, je dis bien quasiment, éliminée. Ton sentiment?
Bah, déjà, je tenais à préciser qu'ils ont été nuls de la première à la 97e minute, tous, du gardien en passant par le coach, l'attaquant. Après, maintenant, pour revenir sur l'équipe de Côte d'Ivoire, ça fait déjà quelques années que l'équipe n'est pas bonne, en fait. Même sur les précédentes CAN, je rappelle quand même que depuis son sacre en 2015, c'est une défaite en phase de poule en 2017, une défaite, il me semble, c'est lors de la CAN 2021. En 2019, ils sortent en quart de finale au pénalty. Et en 2021, ils sortent en huitième de finale face à l'Égypte au pénalty encore. Les deux précédentes Coupes du Monde, la Côte d'Ivoire ne les dispute pas. Depuis 2014, la Côte d'Ivoire n'est pas là à la Coupe du Monde. Donc je pense que le souci, il est au niveau du football ivoirien en général, et pas seulement juste sur cette compétition-là. Et maintenant, pour revenir un peu plus sur le match, bah, ils ont été nuls, hein, tout simplement. Que ce soit, il y a des joueurs, sincèrement, je sais pas comment ils peuvent être sélectionnés. Enfin, Christian Kwame, c'est... Voilà, je sais pas comment lui peut porter le maillot de la Côte d'Ivoire. Il y en a plein d'autres, je vais pas tous les citer parce que ce sera trop long, mais Il va falloir changer beaucoup de choses, notamment le coach aussi qui est, enfin, j'ai l'impression qu'il a rien géré, quoi, que ce soit de la première journée jusqu'à la dernière, il a absolument rien géré. Et concernant la probable qualification des éléphants, je pense qu'ils seront éliminés. C'est bien fait pour eux.
Là, on sent la déception du supporter. Hein. Et là, il y a ton avis sur la question.
Ah bah moi, mon avis, il est tout fait. Hein. Moi, dès le début, j'avais vu comment la Côte d'Ivoire jouait. Depuis qu'ils ont perdu contre le Nigeria, on voyait déjà l'attitude un peu des joueurs. Et je me disais, hein, parce que franchement, je disais attention, parce que dire que Seko Fofana, ok, il nous met un but, etc., mais compter sur Seko Fofana sur toute la compétition, c'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, moi, j'ai vu qu'il a voulu changer en mettant des attaquants, Kouamé, etc. J'ai pas compris ce choix-là. Mais maintenant, moi, je trouve que c'est très facile. Parce que la première chose qui sort de la bouche d'un supporter ivoirien, c'est l'entraîneur. La première chose, c'est l'entraîneur. Or que non. Il y a des fois, il faut regarder. Quand Kouamé se retrouve face au gardien, c'est pas l'entraîneur. C'est Kouamé. Quand Philippe Crasso est hors-jeu et il marque, c'est qui ? Philippe Crasso. Il se replace pas. Quand, juste après encore, Sangaré, il est hors-jeu. Encore une fois, c'est pas le coach. C'est pas le coach. Il y a des moments où tu sais qu'ils se sont fait boire sur un plan tactique. Là, sur le plan tactique, la Côte d'Ivoire y était, puisqu'ils ont dominé le match. Le coach, son travail s'arrête là. À mettre les joueurs en place, à faire une tactique. Après la tactique, il ne peut pas jouer à la place des joueurs. Il ne peut pas être adroit face au but à la place des joueurs. Ça n'est pas possible.
Il y a tout l'aspect mental aussi. Je pense que le coach, il doit assumer un peu ça quand même.
Non, bien sûr qu'il y a l'aspect mental. Mais moi, ce qui m'a beaucoup... Et où j'étais sûr que la Côte d'Ivoire n'allait pas gagner, c'est dès qu'ils ont égalisé, ils sont allés célébrer. Ils jouent à domicile contre la Guinée équatoriale. Ils gagnent, ils perdaient 1-0, 1-1. Mais à aucun moment, tu vas célébrer avec ton public. Tu te remets tout de suite là-dedans et tu te dis, on doit prendre les devants tout de suite. C'est comme ça. Tu dois avoir cette mentale. Si tu ne l'as pas, c'est pas le coach qui va leur inculquer quand même. C'est les joueurs professionnels.
Non, il y a une part aussi où lui il y a quelque chose dans le vestiaire, tu vois, qui doit se passer, quelque chose aux entraînements, à partir du moment où il y a la première réunion. Je pense qu'il doit se passer quelque chose dans les coulisses que nous, on ne sait pas. Qui fait que ça se traduit comme ça sur le terrain où ils n'arrivent pas à marquer, ils n'arrivent pas à concrétiser, et dès qu'ils marquent, et ben ils sont fous de joie, alors qu'au final le but compte même pas, quoi.
Ouais, le but.
Enfin, y a un truc les à deux faire. Fois, je pense que le coach est en grande partie responsable quand même sur l'aspect mental. En fait.
Moi franchement je peux pas m'arrêter qu'au coach parce que je trouve que c'est trop facile parce que il s'arrête vite au coach. Moi je pense que les joueurs sur le terrain ils doivent semer un peu de révolte. Ils sont en train de perdre 3-0. Battez-vous même pour l'honneur. On l'a pas vu ça. Même pour l'honneur on l'a pas vu. Ils se sont laissés continuer à battre. Là, tu n'es pas en club. Tu joues pour ta nation. Tu joues à domicile devant tout ton pays.
Surtout qu'il y a des grands joueurs
vraiment,
qui
mais dit oui, vraiment, c'est vrai.
C'est ça. Tu perds 3-0, ils baissent littéralement les bras. Ils laissent l'équipe continuer. Ils laissent vraiment l'équipe continuer à les abattre. Un quatrième but, tu les vois, ils courent même plus. Ils courent même plus. Moi, franchement, je suis le premier à être contre les supporters qui rentrent sur le terrain ou qui interfèrent, etc. Mais là, franchement, les supporters, ils voulaient rentrer sur le terrain. Mais c'est légitime. C'est légitime. Ils voient leurs joueurs sur le terrain juste devant eux. Ils payent leur place pour venir. Mais une humiliation comme ça, de cette façon, c'est possible de perdre. Même de perdre 4-0, même 5-0. Mais c'est la façon dont tu perds. Faut qu'il y ait un moment de révolte où tu te dis non, on peut pas faire ça. Tu vois, il y a des joueurs sur le terrain, ils sont en train de jouer. Le match n'est pas fini encore, ils sont en train de pleurer. Ils sont sur le terrain en train de pleurer, mais ils jouent pas dans les duels, ils sont pas là.
Non, je suis d'accord.
Non, franchement, c'est une humiliation. Y a
c'est
rien à
c'est en lien justement avec cette façon de jouer les matchs avant même de les avoir gagnés. Hein. C'est aussi ça, hein, jouer le match avant l'heure. Mon cher Abou, ton sentiment sur cette défaite ivoirienne, 4-0 à domicile.
Bah déjà, c'est très violent en fait de perdre 4-0 à domicile. Après, moi sur l'aspect mental, déjà, moi je pense pas que c'est au coach de faire le travail de préparateur mental, et je trouve que même le coach il peut avoir les meilleurs mots du monde, les joueurs ivoiriens je pense qu'ils se sont mis dans une telle pression, parce que faut le dire quand même, faut le rappeler encore une fois, cette CAN elle est formidablement bien organisée, cette CAN elle est magnifique, cette CAN comme il le dit c'est la CAN de l'hospitalité, à part quand on enlève l'aspect réseaux sociaux, c'est vraiment une magnifique CAN, c'est beau, il y a tout le monde qui se mélange, etc. Et je pense que les joueurs se sont mis dans cette dans cette pression-là. Au début, ils ne l'ont pas assez prise au sérieux. Moi, quand je vois Nicolas Pépé, quand je vois sur les réseaux sociaux ce qu'il faisait au début de la CAN, limite, c'est, on va jouer une petite compétition d'un
beaucoup
côté
de
comme
snap,
ça.
Beaucoup de snaps sur les réseaux.
C'est ça. Ouais. Au début, ils ne l'ont pas pris au sérieux. Et après, ils l'ont trop prise au sérieux. C'est, on panique, on
c'était
stresse.
Les extrêmes, quoi.
On sait pas quoi faire. Et il faut le rappeler que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est très compliqué, encore plus quand tu es à domicile. La dernière équipe qui a gagné la CAN à la maison, c'est l'Égypte en 2006. Derrière ça, il y a eu 9 éditions. On a la 32e aujourd'hui. L'Égypte, c'était la 25e.
34e aujourd'hui,
l'Égypte c'était la 25e et aucune équipe n'a réussi à remporter le trophée à domicile, donc c'est une compétition très difficile. Et sur le match en lui-même, enfin, quand j'entends qu'il y a eu 2 buts hors jeu, mais c'est que 10 cm, c'est des détails. Bah, en fait, c'est des détails cruciaux et ça montre que tu ne mérites pas de gagner ce match-là. À ce niveau-là de la compétition, à ce niveau de pression, à domicile, chez toi, tu n'as pas le droit d'être même 1 cm hors jeu. Tu dois être concentré pour ne pas être 1 cm hors jeu. Et ok, tu as 2 buts hors jeu, c'est pas grave, comme il le dit, Eladj, c'est pas fini. C'est pas fini, il n'y a que 1-0. Tu sais que t'es meilleur, tu sais que t'es au-dessus. Et je pense aussi que Jean-Louis Gasset, là, pour revenir au coach, il a tardé dans ses changements. Je pense que quand on dit que Nicolas Pépé a fait une excellente première mi-temps, oui, mais je pense que ça aurait été mieux de commencer avec Jean-Philippe Crasso devant. Et moi, j'ai beaucoup aimé le joueur de Reims à droite,
Diakité
ou Mardikité. J'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il mettait de la percussion. Et je pense qu'il fallait s'appuyer encore plus sur lui. Et pour finir, la Guinée équatoriale, il ne faut pas sous-estimer cette équipe. C'est une équipe qui, chaque fois qu'elle vient à la CAN, fait quelque chose. C'est une équipe qui élimine le Mali il y a 2 ans au pénalty. C'est une équipe qui, cette année, réalise de superbes performances avec leur numéro 9, comme le disait Eladj dans son 30 secondes chrono.
Excuse-moi,
c'est une très, très belle équipe.
Ils sont
invaincus
aussi depuis 2022, ils sont invaincus.
C'est une équipe aussi qui regorge pas mal de joueurs brésiliens qui ont été naturalisés, c'est justement, et qui continuent de grandir.
Et c'est une très belle équipe, hein, quand tu le vois, même quand tu vois les renversements, même quand tu vois sur les buts, c'est une équipe qui joue intelligemment, le coup franc il est magnifique. Enfin, leur but, c'est pas des buts de chanceux, c'est des buts travaillés, réfléchis et qui sont marqués. Donc c'est compliqué pour la Côte d'Ivoire quand tu es à domicile, mais je pense qu'il faut pas trop en vouloir aux joueurs ivoiriens. Moi, en tout cas, je leur en voudrais pas trop et c'est pas encore fini de toute façon.
Alfred, non, tu réagis rapidement, Ibrahima.
Oui, non, c'était juste par rapport à ce qu'Eladj avait dit. Pas Eladj, Stéphane avait dit tout à l'heure par rapport à Nicolas Pépé. Il y a un face-à-face à un moment donné. On a l'impression qu'il veut prendre la balle pour rentrer dans les cages avec. Enfin, non, il n'a pas été bon. Personne n'a été bon. Et l'attaque, et pour parler de l'attaque ivoirienne,
Ibrahima,
à un moment donné.
Stéphane, tu vas réagir. Stéphane, tu auras le temps de réagir. On laisse Ibrahima terminer. Oui, rapidement.
Les attaquants ivoiriens n'ont pas été bons parce que je rappelle qu'un attaquant, il est payé pour mettre des buts. Et quand les cages, elles sont ouvertes. Et qu'on n'arrive pas à cadrer une frappe, on peut pas dire qu'ils ont été bons.
En fait, tu veux dire que Nicolas Pépé aurait dû tomber parce qu'il y avait faute, hein, mais sauf qu'il a tenté de résister pour marquer justement.
C'est soit tu tombes la pénalty, soit tu marques.
Voilà, sinon t'es nul. Et comme il n'a pas marqué, donc pour toi, ça a été mal joué. C'est sur ton avis rapidement, chacun ça.
Ouais, moi je pense que vraiment il aurait dû finir son action parce que là, il ne s'agit pas de tomber. Quand on est un compétiteur, on se doit pas vraiment de. Déjà qu'il prend l'initiative de continuer, ça c'est un geste difficile quand même. À un moment donné, on en seigneur. En compétition vraiment internationale. Soit tu le mets ou soit tu simules l'action. Mais si tu décides vraiment d'y aller au bout, tu sens vraiment que tu as la capacité de le mettre. À un moment donné, c'est pas agacé vraiment de mettre le but.
Oui, c'est bien.
Moi, je suis du même avis que Eladj et Abou, qui ont eu vraiment des interventions limpides. Il n'y a rien à ajouter. Si on n'a pas le mental, on n'a pas le droit d'être en 8e de finale, qu'on pense à autre chose.
Alfred.
En fait, il faut dire bravo à la Guinée équatoriale. Ce que les gens doivent retenir, c'est que les Ivoiriens ont fait preuve d'immaturité pour des raisons très simples. Quand vous regardez le profil d'un Zouyé, ça fait référence par exemple à Yann Koller, ou soit peut-être John Carew ou Luca Toni. C'est des attaquants qui surgissent à tout moment. Ils ont du poids. Donc les Ivoiriens, au niveau de la défense, devraient être préparés par rapport à ça. Maintenant, l'équipe de Côte d'Ivoire, elle arrive comme si elle venait pour faire quelque chose. Non, le départ avait démontré comme quoi elle avait assez de lacunes. Par rapport au match d'aujourd'hui, il faut dire que la percussion de Diakité, ça ne représentait rien du tout. Parce que quand tu as le ballon, que tu es en surface de réparation, tu essaies de regarder au niveau du point de pénalty si tu as quelqu'un. Il faut servir quelqu'un pour faire quelque chose. C'est Kokoufana, au début, on a cru que c'était un leader. Il y avait un jeu carrément décousu. Moi, le gardien, c'est un gamin peut-être de 16 ans qu'on a mis dedans, il n'y a rien. Donc la Côte d'Ivoire a fait croire aux gens qu'ils avaient préparé quelque chose. Il y a 2 choses. Le business, ça c'est vrai, elle est bien organisée, ils vont faire de l'argent. Mais pour faire plaisir aux Ivoiriens, pour mouiller le maillot, non, depuis 2015, comme Ibrahim l'a dit, il n'y a rien. Et ceux-là, ils ne sont pas en mesure de compétir. Même si la chancelière qui devait être passée en 8e de finale, de façon honnête, rien. Il y a beaucoup de choses qui ont été dissimulées aujourd'hui, c'est prouvé. Ils n'ont pas fait de préparation, quant à l'entraîneur lui-même, quand vous regardez bien sur un banc, sur un staff, il y a l'entraîneur principal et il y a des gens, il y a des conseillers. On a vu que l'entraîneur, c'est comme si c'était, je sais pas, quelqu'un, un dauphin qui était là, qui, je sais pas. Non, il n'y a rien. Donc, on ne fait pas. Pourquoi il a fait venir Masgradel? Pourquoi il a fait venir Simon Adengra? Pourquoi il a fait venir cela? Et tu fais jouer quelqu'un deux minutes?
D'ailleurs, tu parles de Simon Adengra et tout ça sur les réseaux sociaux en ce moment. D'ailleurs, même pendant la liste des 27 joueurs, hein, il y a Wilfried Zaha, justement, qui n'avait pas été appelé. Son nom est en train de revenir avec insistance sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sachant que Sébastien Haller n'a même pas joué une seule seconde des trois matchs, donc parce qu'il était plus ou moins convalescent. Donc d'aucuns se demandent aujourd'hui, Sébastien Haller qui ne joue pas parce qu'il est blessé, Zaha qui est en pleine bourre, que tu ne sélectionnes pas. Là, en l'occurrence, je suis désolé, mais c'est le sélectionneur pour le coup. Donne-toi toutes les chances offensives de sélectionner que tu peux appeler. Il n'a pas fait. Rapidement, et puis on va basculer avec notre ami Stéphane.
Oui, non, par contre, par rapport à Wilfried Zaha, sincèrement, on n'était pas forcément informé sur si Adingra et Haller allaient pouvoir jouer ne serait-ce que un ou deux matchs des phases de poule. Mais ne pas appeler Wilfried Zaha pour amener deux joueurs blessés, ça par contre, c'est une honte. Ça, c'est une honte et je ne sais pas, ce qui s'est passé dans la tête de Jean-Louis Gasset, mais appeler deux joueurs blessés, préférer deux joueurs blessés et Masgradel qui ne rentre pas, ça aussi, je ne comprends pas. Et ne pas appeler Wilfried Zaha, ça par contre, c'est une honte.
Oui. Stéphane, tu voulais répondre s'agissant de Nicolas Pépé?
Non, ce que je constate, on en avait discuté, Malik, ce que je constate, c'est que carrément peut-être un petit peu plus objectif que vous, à regard un peu plus détaché par rapport à ces matchs, et je persiste et signe, regarde le match Ibrahima 10 fois, la première mi-temps de la Côte d'Ivoire, elle est vraiment pas mauvaise. Dans cette mi-temps-là, il y a ce but, par rapport à Elad, le but pour hors-jeu sur son carré, c'est une remise de la tête, il part, il est hors-jeu de 3 cm, tu peux pas dire qu'il n'a pas le droit d'être hors-jeu comme ça. Maintenant, ce qui s'est passé simplement, d'après moi, et c'est pour ça que là par contre je vais contre à vous, je pense que le coach il est quand même assez responsable, en tout cas l'encadrement technique, parce que l'état mental de l'équipe dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est quand même hallucinant. Pour moi, c'est ce qui m'a marqué. Pendant une heure quasiment, on va dire 50 minutes, c'était assez intéressant. Et à partir du moment où ils ont eu les deux buts, et comme l'a souligné Elhadj, marqué un but, égalisé pour eux, on avait l'impression qu'ils avaient gagné la finale de la Coupe du Monde, alors qu'ils jouent à domicile et que c'était juste simplement remettre les pendules à l'heure. Je veux dire, ils ont complètement craqué. Et je répète encore une fois, pour moi, le drame, en tout cas, si j'étais un supporter de la Côte d'Ivoire, c'est que chaque but qu'ils prennent leur enlève une chance en plus d'être pêchés. Et on verra à la fin comment ça va se passer. Ça se trouve, un but, le quatrième but, par exemple, qu'ils encaissent, ce qui est scandaleux, quoi, où ils arrivent tout seuls devant, ce qu'ils devaient tous se ruer à l'attaque, ou j'en sais rien. J'ai l'impression que l'équipe n'était pas préparée sur les enjeux, quoi. Il y a le truc à dire, c'est que même si vous perdez, le meilleur troisième, il passe, il faut rester solide. Tu perds 1-0, c'est pas pareil du tout que de perdre 4-0, quoi. Mais moi, je persiste. Pépé, je trouve qu'il a fait un bon match. Je suis là avec un œil complètement naïf et extérieur. Quoi, un bon match, 45-50 premières minutes qui étaient bonnes. Fofana, c'était un peu le contraire. Il a été meilleur en deuxième, je pense, qu'en première mi-temps où il a eu du mal. Et je pense Conan, latéral gauche, là, qui est passé aussi par un, très intéressant. Diakité, très intéressant. Donc voilà, maintenant après, qu'est-ce que tu veux,
C'était aussi un jour sans, hein, quand on regarde un peu le contenu du match. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer, mais c'était aussi un jour sans. On a l'impression que la Côte d'Ivoire aurait joué même jusqu'à demain, jamais de la vie. Elle aurait pu inscrire un seul but.
Ils auraient peut-être pris des buts. Maintenant, c'est un peu dur. Moi, j'en veux, alors là, au contraire, justement, d'Abou, j'en veux énormément beaucoup plus aux préparateurs. Quelqu'un a évoqué en disant que c'est vrai qu'ils n'avaient pas préparé cette canne et tout. C'est un peu l'impression que ça donne, quoi.
Mais en tout cas, je sens que du côté d'Abidjan, c'est en train de tonner d'ores et déjà. Il n'y a qu'à regarder un peu les différentes réactions sur les réseaux sociaux pour s'en tenir justement informé. Dans quelques instants, on va recevoir notre ami Tioni, artiste sportif aussi, hein, qui aime bien le football, hein, originaire du Cameroun, originaire de la Guadeloupe aussi. T'es branché au foot, hein, mon cher Tioni, hein. Un peu, hein. sur tous les gros événements comme la CAN. On va en parler dans quelques instants. Et on va surtout parler justement de ton concert qui arrive du côté de l'Élysée Montmartre. C'est le 9 février prochain, dans quelques instants, sur Mon Paris FM, dans Au Bout du Foot. Restez toujours connectés. Dans quelques instants, mon cher Stéphane Desenclos, on va encore parler de la CAN parce que tu vas nous expliquer un peu quelles sont les moindres chances du côté ivoirien pour encore se qualifier. Ça va arriver juste après ceci.
Tiwoni, l'icône pure du reggae, vous convie à une soirée mémorable le 9 février à l'Élysée Montmartre dès 20h. Plongez dans l'univers de son album Frequency pour une expérience reggae authentique. Réservez vos places pour vibrer au son inimitable de Tiwoni. Un concert à ne pas manquer, une soirée unique de pur reggae. Tiwoni en live le 9 février à l'Élysée Montmartre. Soyez prêts pour une nuit de passion musicale 100% reggae. Au menu d'Au Bout du Foot de ce 22 janvier 2024, la question Au Bout du Foot. Cristiano Ronaldo, double lauréat au Globe Soccer Awards, a loué le bon niveau du championnat saoudien de football en affirmant que la dite ligue est beaucoup plus compétitive que la Ligue 1. Une déclaration controversée qui suscite le débat. Qu'en est-il de l'avis de nos consultants? D'accord ou pas d'accord avec CR7? 30 secondes chrono. Quels sont les faits majeurs football de nos chroniqueurs en 30 secondes? La CAN 2023, commencée depuis le 13 janvier dernier en Côte d'Ivoire. Les premiers qualifiés pour les huitièmes de finale sont désormais connus. Commentaires, analyses, décryptage de nos consultants. La Coupe de France, retour sur les performances avec Sochaux qui élimine Reims, le doublé de Kylian Mbappé, l'élimination de Nantes au profit de Laval, la difficile victoire des Lyonnais contre Bergerac et l'élimination de l'Olympique de Marseille par le Stade Rennais. Laquelle de ces affiches a retenu votre attention et pourquoi? La Bundesliga, le Bayern Munich, relégué provisoirement à 6 points du Bayer Leverkusen avec un match en moins. Les hommes de Xabi Alonso, l'entraîneur, sont quant à eux invaincus avec 15 victoires, 3 nuls en 18 journées de championnat. Le Bayern de Tourelle et Harry Kane a-t-il d'ores et déjà perdu le titre? Peut-on s'attendre à un nouveau champion en Bundesliga? Nos consultants vous répondent. Au Bout du Foot, l'émission 100% foot de Mon Paris FM en collaboration avec Le Quotidien du Sport. Bienvenue.
Long Road, Tiwoni en concert live du côté de l'Élysée Montmartre. C'est le 9 février prochain, ça tombe un vendredi. Cher Tiwoni, bonsoir à toi.
Bonsoir, ça va? Merci
bien.
Pour l'accueil, ça va.
Album Frequency, toujours hein, disponible en téléchargement.
Toujours disponible.
L'artiste Tiwoni, je sens que tu es en forme déjà là.
Ben, on essaie de maintenir la forme. En plus, on a une grosse date qui arrive, donc on a intérêt d'être en forme.
Ouais, mais comment tu fais? Parce que le Cameroun, ça va pas trop bien aussi là. On est dans une émission de foot. Hein.
Tu connais, on va parler un peu. Hein. On reste des lions indomptables. C'est juste une bataille.
C'est une bataille, hein, c'est pas justement. Et ce lion justement indomptable sera sur la scène de l'Élysée Montmartre ce 9 février. Comment tu prépares ce concert, Diwani?
Je le prépare un peu comme. Comment te dire? Avec beaucoup de sérieux déjà. C'est-à-dire que j'essaie de me donner une autre hygiène de vie aussi, même si bon, j'essaie de, au niveau de comment je m'alimente, je fais beaucoup plus de sport, j'en fais déjà pas mal. Mais là, je prépare ça un peu comme les Jeux Olympiques.
Ouais, ouais, donc tu veux monter en puissance.
Ouais, l'idée,
c'est que l'équipe ivoirienne n'a pas fait. Hein.
L'idée, c'est vraiment de donner le meilleur quoi, à mon public, à tous ces gens qui me suivent, parce que c'est quand même plus de 25 ans de carrière. Donc. L'Élysée Montmartre, c'est une salle quand même mythique. Donc je vais vraiment faire un spectacle à la hauteur de la salle, à la hauteur de tout le soutien que j'ai reçu au fil de ces années aussi. Et c'est comme si tu invitais les gens à manger chez toi ou ta famille, tu as vraiment envie de leur donner, leur faire de bons petits plats, mettre les petits plats dans les grands.
Il y aura quoi dans les plats là? Il y aura ma fée, comme ça, elle là, tu vas venir. Tu dis ma fée, elle là, tu vas venir.
Il y aura ma fée.
Tu dis Tchep, tu dis Tchep, Abou, il vient.
Il y aura Ndoulé, il y aura Tchéké. Il y aura Banane Plantain, il y aura tout ça.
Dombré et tout, il y aura tout.
Voilà.
En tout cas.
Donc voilà, et puis après, on s'entoure des bonnes personnes aussi. On a déjà commencé à répéter, on a fait des résidences de répétition aussi. Donc c'est aussi notre approche où on passe toute une journée vraiment à décortiquer chaque morceau, à revoir le show sous différentes formes, l'approche, le côté aussi scénographique. Donc c'est plus que juste préparer un simple concert comme ça. Là, c'est vraiment un spectacle, on a pris le temps. Et puis là encore, on a une session de répétition aussi avec les invités et puis pas mal de surprises aussi.
Combien de chansons lors de ce concert sur scène?
On a à peu près un tracklist d'environ une bonne trentaine de tracks, quoi.
Ah ouais, quand même.
Après, il y a des invités. Enfin, voilà, c'est 9 albums quand même. Il y a pas mal de titres qu'on a sortis.
Ah, moi, mon préféré, c'est Long Road.
Ah, ben, je suis content.
Ah ouais, ouais. Content. Celui-là, je l'écoute en boucle. Hein, et franchement, je te dis ça très sincèrement, je l'écoute en boucle. Je le kiffe. D'ailleurs, tout le monde ici le sait. Hein. J'arrête pas, justement, de parler de ce concert-là
depuis plusieurs semaines déjà.
Ouais, ouais. Long Road, c'est franchement.
Même quand l'album est sorti, tu avais déjà eu ton coup de cœur.
Ah ouais, c'est une tuerie, une véritable tuerie. Tiwani est invité d'Au bout du foot. Une fois n'est pas coutume. C'est la première fois qu'on reçoit un artiste dans cette émission qui est exclusivement justement lié au football. Tiwani, 9 février prochain, du côté de la mythique salle de l'Élysée Montmartre, c'est Paris, 18e arrondissement. Allez-y d'ores et déjà prendre vos places, hein, parce que l'artiste ici présent dans nos studios est tout simplement prêt avec toute sa team. Hein, c'est beaucoup de titres sur scène. Tiwani, un nouvel album qui s'appelle Frequency.
Voilà, Frequency.
Déjà dans les packs depuis un moment déjà. Comment ça se comporte?
Ben, ça se passe plutôt bien. On a fait une belle année. Il y a pas mal de clips qui sont sortis. On a fait pas mal de belles dates, des festivals. C'est un peu ça qui a amené aussi à faire cette date aussi à l'Élysée Montmartre. Mm-hmm. Là, on est en train de travailler sur la réédition, l'album. On a un nouveau clip aussi du titre Paradise, un titre présent sur l'album qui arrive le 26 de ce mois. On a des nouveaux morceaux aussi qui vont être mis en image aussi dans pas longtemps. Et donc voilà, on continue à bosser dessus. Les retours sont positifs. Et vu que c'est un album pour lequel aussi j'ai pris vraiment le temps de travailler chaque titre, on a aussi envie de prendre le temps aussi de le promouvoir comme il faut et de le laisser vivre et porter ses fruits comme il se doit, quoi.
Mais justement, on l'entend en fond sonore, on sait Frequency, Tiwani. Connecte-moi sur la toute frequency. Connecte-toi sur la toute frequency. Ah, si vous le découvrez, c'est tout simplement Tiwani. Allez-y, prendre vos places pour l'Élysée Montmartre, 9 février. Tiwani en concert avec toute sa team sur la scène de l'Élysée Montmartre, en cette salle, encore une fois, mythique, côté Paris, 18e arrondissement. Tiwani, tu restes avec nous, on va continuer de parler foot et on va continuer aussi de parler de ton concert du 9 février prochain, les amis. Mon cher Jason, est-ce que Stéphane est encore avec nous? Alors Stéphane, juste avant Tiwani, justement, on parlait des chances ivoiriennes de pouvoir prétendre encore à la qualification. Est-ce que tu peux nous expliquer?
Bah oui, bah je vais expliquer, mais si les gens qui nous écoutent, ils veulent bien comprendre, il faudrait qu'ils prennent un petit classement devant eux. C'est, en fait, il y a pas mal de gens. Il y a les quatre, déjà, le premier postulat, c'est les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés. Ce qui veut dire, si on retourne la chose, il y a simplement deux troisièmes qui ne vont pas être qualifiés. C'est-à-dire, ce qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire soit en huitième de finale, il faut donc trouver dans les différents groupes deux troisièmes qui auront moins de points ou de buts marqués ou plus d'encaissés que la Côte d'Ivoire. Alors déjà, par exemple, si on regarde dans le groupe B, ça va jouer demain, je crois. Non, ça joue même en ce moment. Ça doit jouer en ce moment dans le groupe B. Si jamais le Ghana a un point et troisième avec un point, le Mozambique quatrième avec un point, si le Ghana et le Mozambique font match nul, vous avez bien compris, donc ils sont déjà moins bons au troisième. On peut même ajouter au cas où, si jamais le Cap-Vert bat l'Égypte et que, par exemple, le Ghana gagne son match, bah, ça sera l'Égypte qui aura 2 points, qui sera donc troisième avec 2 points en dessous de la Côte d'Ivoire. Donc déjà, une première possibilité. C'est vrai, c'est toujours capillotracté, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est un peu...
Non, mais surtout quand tu as ton destin entre tes pieds, si j'ose dire, et que tu saisis pas la balle au bon, c'est vrai qu'après, on n'a pas envie de faire des calculs. Hein.
Voilà, après, si t'as envie de faire... Après, tu as le groupe C, par exemple. Le groupe C, tu as le Cameroun qui est troisième avec 1 point, et la Gambie qui est dernière, donc avec 0 point. Donc, il faut, si jamais, imaginons, c'est, pourquoi pas, avec tout ce qui se passe là, que la Gambie, qui a moins 4, batte 1-0 le Cameroun, elle aura moins, donc 3 points et un goal average de moins 3, une différence de but, je pense, moins de buts marqués que la Côte d'Ivoire, qu'on a marqué 2, je pense que ça se jouera là, la différence, donc la Côte d'Ivoire sera devant. Donc, deuxième cas. Ou s'il y a un match nul, alors là, il n'y a même pas besoin de parler du goal average. Il y a un match nul entre la Gambie et le Cameroun. Les deux équipes, le Cameroun sera troisième, mais aura moins de points que la Côte d'Ivoire. Donc, deuxième possibilité. On est d'accord qu'il faut en trouver 2 en tout pour que ça passe. Après, le groupe D, je crois que c'est joué. C'est pas la peine. Le groupe F, par exemple, Namibie a 3 points et moins 3. Si la Namibie
ça fait mal à la tête, hein.
Oui. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, je disais, ça fait mal à la tête.
ce groupe-là, qu'est-ce que j'ai mis? Je regarde dans l'article qui est passé sur notre site. Non, le groupe D, c'est mort. Le groupe E, c'est possible. Par contre, le groupe E, c'est encore possible. Et le groupe F, quoi. Bon, bref, c'est le même système que j'ai expliqué là. Il faut regarder. Pour l'instant, c'est des équipes qui ont moins de points. Les deuxièmes ont moins de points. Les troisièmes, pardon, ont moins de points que la Côte d'Ivoire. Donc, selon les résultats, ils peuvent très bien avoir. Bon, chacun peut faire son classement chez soi, ouais, et peut faire son propre classement pour voir qu'il y a encore. Il y a 4 groupes où ça peut être possible. Mm-hmm. Ben, c'est vrai que c'est un petit peu capillotracté, mais il faut qu'il y en ait 2 où les combinaisons, les résultats tombent pour que 2 sur 4. Pour que ça passe, quoi. Voilà.
Ouais. Et le Ghana, ils sont en train de gagner. Hein. Petite info, le Ghana sont en train de gagner. Du coup, l'Egypte, là, sont en train de faire match nul. Du coup, l'Egypte sont à 3 points avec 0 but de points de différence. Et ils sont à 3 points et le Ghana, 4 points. Du coup, là, l'Egypte, en tout cas, pour ce groupe-là, en tout cas, la Côte d'Ivoire ne passera pas devant. Pour
voilà, ouais. Si ça se termine comme ça, effectivement, ouais. Voilà, une chance, une des 4. Moi, je dis pas que ça va du tout. Je dis pas que ça va le faire. Je dis il y a 4 possibilités. Il faut qu'il y en ait 2 qui se concrétisent, donc ils ne sont pas encore éliminés, ce n'est pas non plus à chaque fois des miracles. C'est vrai que normalement, c'est Ghana qui gagne et l'Égypte aussi qui passe dans ce groupe-là, mais c'est évident. Mais il s'est passé tellement de choses dans cette case. En tout cas, mathématiquement, c'est possible, et c'est pas, même si sur notre site, on a parlé de miracles, mais c'est même pas complètement un miracle, parce que c'est beaucoup de chance, effectivement, et en tout cas plus qu'ils n'en ont eu dans leur match ce soir.
Merci Stéphane pour tes lumières, on va suivre ça de très 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 près. Hein. Mon cher Tiwoni, le Cameroun en ballotage, hein, plus que défavorable là pour le coup.
C'est ça, après on ne sait jamais ce qui va se passer.
N'est-ce pas? Mon cher Elad, justement, est-ce que tu crois justement à une qualification éventuelle malgré tout des Ivoiriens avec le tableau que vient de nous dresser Stéphane?
Oui, bien sûr, moi je pense que la Côte d'Ivoire vont se qualifier, hein. Je pense que je pense qu'ils vont se qualifier. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est pas la qualification ou non. Hein. C'est vraiment est-ce qu'ils ont même la tête à jouer encore ? Parce que là, franchement.
C'est un coup de massue hein, ce soir.
C'est plus qu'un. C'est le coup du marteau, on peut dire ça comme ça avec le jeu de mots.
La fameuse chanson.
La fameuse chanson, mais franchement, moi, je pense qu'ils vont se qualifier honnêtement. Mais le match d'après, faudra mentalement être beaucoup plus solide. Hein. Faudra vraiment tout effacer et repartir à zéro. Vraiment.
Ils se font tellement insulter sur les réseaux en ce moment. J'espère qu'ils ne lisent surtout pas ce qui se passe sur leur téléphone portable. Hein, parce que franchement.
Oh, ils sont à domicile après. Partout où ils vont se balader, même ils vont entendre.
Non, mais là tu te balades plus. Tu arrêtes de snapper. Tu restes focus. Tu vas te mettre dans des glaçons là pour te régénérer un peu, prendre des forces pour éventuellement, je dis bien éventuellement, continuer la compétition. Ibrahima, tu penses qu'il y a des chances
Non, et en tant que supporter, je souhaite même pas qu'ils accèdent aux huitièmes de finale, qu'ils sortent et qu'ils rejouent plus jamais pour la Côte d'Ivoire jusqu'à la prochaine, jusqu'aux prochaines phases de qualification pour la Coupe du Monde.
Là, c'est l'émotion, là.
Comment ?
Là, c'est l'émotion. Là, moi, je veux parler aux consultants, pas aux supporters.
Ah non, c'est le consultant qui parle, hein. Parce que même s'ils vont en huitièmes de finale, c'est pour faire quoi ? Enfin, je sais pas si vous avez vu les joueurs à la fin du match, mais ils pleuraient tous. Ils ont, comme Eladj l'a dit, ils ont plus la tête à jouer au foot. Et s'ils jouent, ils vont en prendre 8 là. Donc.
Mais il paraît que c'est bien. Assa n'est pas là. Notre psy Assa n'est pas là. Mais
en tant que meilleur troisième,
c'est bien de pleurer.
Et surtout le truc, la chose qu'on oublie, c'est qu'en tant que meilleur troisième, ils vont tomber sur un premier du coup, il me semble.
Non, c'est sur le deuxième. Ils tombent sur des deuxièmes.
Oui, mais quelle que soit l'équipe, hein, j'ai peur de voir un Sénégal, Côte d'Ivoire ou Maroc ou je ne sais quoi. Donc, vaut mieux qu'ils sortent et qu'ils retournent dans leur club et qu'on passe à autre chose tout simplement.
Chaganza.
Ouais, sincèrement, vraiment, l'équipe n'a plus vraiment la tête. Je pense que oui, les jambes peuvent courir, mais la tête, pourtant le football, il n'y a pas que les jambes. À un moment donné, il faut la tête. Donc là, on a senti un collectif abattu. L'entraîneur aussi qui était vraiment abattu dès le premier but, qui a senti vraiment que oui, que son groupe allait lâcher.
Parce que c'est surtout au moment où intervient le but des Équato-Guinéens, quoi. C'est un peu avant... la mi-temps, hein, d'où justement le geste de Gassé qui se tient la tête, effectivement. Oui. C'est peut-être pas un bon signal envoyé
à
ces joueurs, cela dit. Mais bon, on peut toujours réécrire l'histoire, hein, les amis.
Oui, mais peut-être c'est peut-être un bon signal, peut-être pas un bon signal. Moi, je pense que c'est déjà mauvais pour la junior, pour l'équipe vraiment qui se réfère à son entraîneur. Parce que oui, vraiment, quand on est un entraîneur vraiment qui abandonne... Dès la 40e minute, on sent que vraiment le groupe va lâcher au bout de 70 minutes. Oui, vraiment, c'est des signes précurseurs.
30 secondes, Stéphane, on va donner la parole à Alfred.
Juste pour dire que, vu de l'extérieur, là, parce que j'en entends certains, Ibrahima et Cheikh, par exemple, exactement dans le même état que les joueurs ivoiriens sur le terrain. Vous êtes exactement dans le même état. Vous avez envie de tout balayer d'un revers de main, Ibrahima particulièrement. Faut pas tomber dans c'est des pros les mecs, c'est quand même des gros pros. Kessier, Fofana, Pépé qui sont passés par Arsenal, par des gros clubs. Les mecs ils peuvent pas se permettre de dire ça. Là ils sont déçus parce que c'est ça. Mais dans 3, 4 jours, 5 jours, quoi, je sais pas quand aura lieu le 8e de finale. Si jamais ils ont la chance, le bonheur d'être, ils sauront d'où ce qu'ils ont évité. Et ça sera effectivement à ce moment-là au staff technique, à l'encadrement et tout, d'arriver à les remettre d'un point. Ils ont complètement craqué sur ce match, mais je le répète, en 50 minutes, jusqu'à la 50e minute à peu près, ou 60e minute, il y a vraiment plein de choses intéressantes à voir. Il ne faut pas tout jeter comme ça. Comme moi, c'est mon avis.
Ça s'appelle la déception, effectivement. C'est pour ça que j'ai besoin de ton avis, Stéphane, parce que tu as quand même du détachement par rapport à ça.
Voilà,
tu es en mode neutre par rapport à cette analyse, Chaganza.
Là, vraiment, ce que Stéphane dit, là, il parle de 50 ou 60 minutes. Mais quand on joue une canne à la maison, on se doit d'être concentré de la première à la 90e minute, voire le temps additionnel. Si on joue 60 minutes, on joue une partie du jeu. On ne joue pas tout le jeu. Pourtant, au football, quand on parle de professionnel, c'est de la première à la 90e minute. Donc, c'est un relâchement, il n'y a pas une préparation. Là où j'en voulais vraiment revenir au propos d'Alfred, il n'y a pas une préparation sur une longue durée. En début d'émission de Cannes, j'avais dit ici qu'on n'a pas l'habitude de jouer 75 minutes. Et là, on ne joue même pas 75 minutes, on joue 70 minutes de jeu où on est concentré. Après, s'il y a un abandon, on se doit pas d'être vraiment à la phase à qualification directe. Parce que toutes les équipes qui sont concernées sont concentrées. On a vu un Sénégal vraiment qui était concentré de la première à 90e minute. On a vu un Cap Vert vraiment, malgré quelles que soient les difficultés du match, qui arrivait vraiment à se remettre là-dedans. Les gars, on y va pour la gagne. S'il n'y a pas cet esprit.
Sauf que la Côte d'Ivoire joue à la maison, c'est différent aussi.
Différent. Kenza, excuse-moi, je voulais juste rapporter un petit truc. Bah voilà, les deux équipes que tu as citées, la Côte d'Ivoire, s'ils se qualifient, du moins, ils tombent soit contre le Cap Vert, soit contre le Sénégal. Si les deux finissent premier.
Oui, Brejba. Non, mais pour revenir sur ce que Stéphane disait, comme quoi j'étais dans le même état d'esprit que les joueurs, bah non, en fait, c'est juste que.
Non, mais l'idée, c'est pas de vous répondre, hein, les amis.
Je sais, mais par rapport à ce que j'ai vu dans le match, en fait, c'est pas ce match-là précisément. C'est les trois matchs où ils ont pas été bons. Et le coach, tactiquement, c'est pas bon aussi. Et au niveau, même que ce soit au niveau du style de jeu, les joueurs, ils sont tout simplement pas bons. Et à un moment donné, on récolte ce que l'on sème.
Darius, là-dessus ?
Là-dessus, pas grand-chose à rajouter. Je comprends un peu tous les points de vue. Moi, je suis un peu plus en dehors parce que.
C'est pour ça que j'ai besoin de ton avis.
Ouais. non, moi, je pense que s'ils se qualifient, déjà, premièrement, leurs destins ne sont pas entre leurs mains, donc c'est un mauvais signe. Mais s'ils se qualifient, peut-être que ça peut être un bon rappel. C'est possible qu'ils soient rentrés dans cette CAN trop confiants. Ils se disent que ça joue à la maison, ils ont une grosse équipe et un groupe à premier abord qu'on se dit pas forcément très relevé. Et donc ils gagnent leur premier match 2-0 et après ça, tout s'écoule un petit peu. Donc on voit des joueurs voilà, qui pleurent à la fin du match et tout. Et je me dis que peut-être ça va être ça le rappel s'ils se qualifient, que voilà, rien n'est gagné, qu'ils n'ont aucune raison d'être confiants. Et qui sait, après le foot, tout se joue en 90 minutes. Peut-être qu'avec un peu de chance, ils peuvent accéder au prochain tour et là ça peut être un effet boule de neige. Donc je pense que c'est trop tôt pour abandonner. S'ils se qualifient grâce aux autres équipes. Ils ont encore un coup à jouer parce qu'ils ont quand même des gros joueurs, des gros noms.
Et puis on va rappeler, hein, c'est humain de pleurer. Hein. Il n'y a rien bien de sûr. Mauvais à pleurer. Oui, mon cher Alfred.
Si
non, mais
je
sérieusement.
Peux juste dire quelque chose.
Oui, Thiouni.
Je pense aussi du fait de pouvoir, entre guillemets, des fois qu'on touche le fond, entre guillemets, ou l'impression de. Et d'avoir un peu, d'être acculé un peu, ou cette honte, entre guillemets, parce que ça se passe. C'est l'équipe nationale, c'est la
parce
compétition.
Non, mais parce qu'il faut dire
là-bas.
Aussi, les Ivoiriens, c'est des grandes gueules.
Oui, mais en fait, je pense
que. C'est les extrêmes, en fait. Hein.
C'est, ils peuvent revenir bien plus fort, justement. Tu vois, et ça peut être ça aussi qui peut.
Je suis d'accord.
Sursaut d'orgueil, et puis se dire, ah bon. Et là, ça peut être, c'est là où la compétition peut être belle aussi. C'est des espèces de sursauts comme ça. Où...
Ibrahima, il est tellement pragmatique, il n'y croit même pas. Alfred.
Pour moi, personnellement, si la chance, elle arrive. Que la Côte d'Ivoire la saisisse, mais moi je suis très réservé.
Franchement,
parce que de façon honnête, oui. c'était le départ qu'il fallait faire quelque chose. Ouais. On l'a pas fait. Aujourd'hui, c'est pas des gamins, c'est pas des novices. Ils jouent dans des grands championnats. Il y a des actions. Tu as une balle, fais quelque chose.
Ouais, mais des fois il y a aussi la pression.
Il y a pas de pression. Il y a pas de pression.
Mais oui.
Il y a pas de pression. Il y a pas de pression. Il n'y a pas de pression, je suis en face de toi, je dois donner à Ibrahim pour que Ibrahim marque, je lui donne le ballon. Je ne dribble pas 4 joueurs.
Non, mais Alfred, là, je ne suis pas d'accord avec toi pour le coup. Parce que, tu peux pas dire qu'il n'y a pas de pression étant assis à Paris. Non, il y a un souci quand même. Non, soyons objectifs. Tu ne peux pas être assis à Paris dans les studios de Montpellier FM en plein 13e arrondissement et dire non, il n'y a pas de pression du côté des Bampé à Abidjan. Il y a un souci.
Malik, tu sais, on a regardé le match ensemble.
Oui.
C'est pas que les Équato-Guinéens étaient à cheval sur les Ivoiriens. Les Ivoiriens avaient le temps d'obtenir une balle, d'avoir quelqu'un face à lui, de faire une action. Tu es d'accord avec moi? Mais l'action, tu te précipites pas pour la faire. Prends ton temps, certes, ton coéquipier construisait quelque chose.
Mais justement,
ils ont rien fait.
Justement, Alfred, c'est là où on te dit qu'ils étaient sous pression.
Mais
c'est
ils n'ont pas de pression.
C'est la pression.
Il faut réfléchir.
Mais c'est la pression qui te fait déjouer comme ça.
Ils
n'avaient
pas d'armes.
Justement, je pense en tout cas, c'est la pression qui te fait déjouer comme ça, Chakanza.
Moi, je pense qu'au niveau de la pression, il y avait une pression, mais elle était positive. Parce que dès l'instant qu'en début de CAN, déjà, on reçoit vraiment. Des membres du gouvernement vraiment qui viennent nous apporter notre soutien en nous disant que oui, on a la
mais
maison.
Ça peut être une forme de pression, ça, les amis.
Oui, ça non,
bon,
c'est.
Après,
ça, si tu me le permets, si tu me permets.
Robert...
Là, si tu me permets de terminer, si tu me permets aussi, Malik, j'aimerais vraiment terminer mon intervention. J'ai dit vraiment, en début vraiment de compétition, on reçoit vraiment des membres du gouvernement. C'est la pression, mais elle n'est pas une pression vraiment abusive. On nous demande déjà d'être positif, de nous faire plaisir. On nous demande déjà que le peuple nous soutiendra.
quoi qu'il arrive.
Mais comment tu peux t'asseoir à Paris? Tu ne vis pas une situation. Et toi, de ton fauteuil parisien, tu estimes que les personnes qui sont en train de vivre une situation ne sont pas sous pression. Appelle un joueur. Appelle un joueur qui a compéti justement durant ces trois matchs, ou en tout cas qui fait partie de l'environnement des éléphants de Côte d'Ivoire. Appelle-le et demande-lui s'il sent la pression ou pas. Appelle 2, 3, 4, après tu fais une moyenne. Mais tu ne peux pas être ici et vivre ce que les gens vivent sur place là-bas, à 6000 km. Là, je suis désolé, c'est pas objectif, les amis.
Moi, non,
je
ne
vais pas affirmer qu'il y a une pression, mais tu ne peux pas aussi dire qu'il n'y a pas de pression.
Moi, je dis qu'il y a une pression positive, c'est ce qui est différent d'une pression négative. Ça. C'est-à-dire qu'il y a une pression
sale. Moi, je joue au football.
Moi, je joue au football.
Oui, mais les joueurs sont différents.
Moi, je joue au football.
Il y en a qui ont pleuré, d'autres n'ont pas pleuré.
De ce que j'ai vu,
différents.
Là,
quand
donné... Malik, attends, à un certain moment donné, il faut être sérieux. Regarde, le Sénégal joue au football. Il n'y a pas de panique, ils sont sereins. J'ai le ballon, je donne à l'autre, je fais ceci, cela. Ça se construit.
Non, mais les amis, vous crachez très vite dans la soupe. Ils fuient.
Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une pression. Voilà, il y en a qui maîtrisent mieux.
Il fuit une époque si demain le Sénégal.
Oui, mais jusqu'à quand vous serez là,
tu sais, ça va
jusqu'à
très
quand
vite.
Non, mais je veux
Alfred,
dire que.
Alfred, ça va très vite dans le foot. Si demain le Sénégal perd par 2-0, tu ne diras pas ce que tu es en train de dire là. Tu vas analyser le match qui s'est passé, qui a vu la défaite éventuelle du Sénégal.
Le jugement de la Côte d'Ivoire.
Match après match.
Le premier match, tu pouvais comprendre.
Imaginons un instant. Mmh. Imaginons un instant. Hein, scénario, comme évoqué par Stéphane. La Côte d'Ivoire se qualifie, va au second tour, finit demi-finaliste, voire finaliste. Tu dirais quoi?
Mais avec quel joueur?
Non, mais peu importe. Parce que le football est parfois.
Ouais, il n'y a pas peu importe.
Même la Guinée équatoriale n'a jamais pensé, même dans ses rêves, gagner aujourd'hui 4-0.
Peut-être,
mais pas 4-0.
Tu sais, il faut être.
Il faut te dire, le football, parfois, il est spécial.
Non, le football.
Et ils avaient la pression aussi.
Le football, tout à l'heure, vous évoquez un problème de pression. C'est une façon de couvrir la Côte d'Ivoire. Mais moi, je dis toujours dit, quand tu joues au football, il y a des actes concrets. J'ai toujours dit, les 15 premières minutes, il faut d'abord dominer ton sujet, il faut maîtriser le jeu.
Mais
d'accord,
c'est,
la Côte d'Ivoire n'a jamais fait ça.
Ça a été le cas quand même.
Mais les actions que vous obtenez, vous ne concrétisez pas. Vous ne faites rien. On ne dirait même pas des professionnels.
Il ne faut pas dire dominer, il faut dire marquer.
Ils n'ont rien fait.
C'est différent. Et Raima?
Non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de pression sur les joueurs ivoiriens. Il y a quand même une certaine pression. Ils sont à domicile. C'est une CAN qui a été organisée pour le peuple. On attend quand même un minimum de résultats. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas la pression.
Maintenant, ils étaient prévenus au départ.
C'est sûr, il y a la pression pour toutes les équipes. Hein, mais quand on reçoit, quand on fait le match d'ouverture, il y a...
Le premier match, je pouvais comprendre.
Il y a quand même une certaine pression.
Puis,
on ne peut pas nier.
Et puis autre chose.
Si je peux finir maintenant, pression pas pression, Christian Kouamé, il est nul. Hein, donc voilà. C'est ça en fait le souci.
Après,
c'est que lui, il est nul toute l'année.
Oui,
donc,
oui. Toute l'année, je ne sais pas, mais je ne le regarde pas souvent.
C'est un attaquant qui est lent en plus.
Tu n'as rien loupé.
Il est lent.
On va continuer, il faut qu'on avance les amis. Juste une phrase, mon cher Chakenza.
Ouais, quand Ibrahim parle de pression, moi je reviens sur mes propos, il y a une pression positive, il n'y a pas une pression négative. Dans
c'est,
la mesure
c'est chacun
où...
qui la vit. Ouais, tu ne peux pas être ici
ça,
et dire ce que les gens vivent.
Ça, je le sais.
C'est pas juste, c'est pas objectif.
Ça, je le sais, il y a une pression, mais quand des gens reçoivent vraiment le soutien de la population, quoi qu'il arrive, on nous dit quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, c'est une CAN de l'hospitalité. On est là pour recevoir, on ne se rajoute pas la pression, en étant professionnel quand même. À un moment donné, oui, c'est ça.
Merci en
franchement,
tout cas.
Moi je pense que.
Oui,
franchement, moi je pense
on va ponctuer avec la CAN
oui,
là. Justement.
Ils ont de la pression. Moi je pense qu'ils ont de la pression. Après, c'est sûr que c'est pas l'époque de Robert Gay. Je sais pas s'il y en a qui connaissent.
Ouais, j'ai vu l'histoire.
Tu connais l'histoire ou
voilà, j'ai la vidéo.
Pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Robert Gay, c'était un chef. C'était le chef de l'État de la Côte d'Ivoire de 1999 à 2000.
Militaire.
Et militaire, oui, qui était arrivé par un putsch au pouvoir. Et il y avait la CAN qui se déroulait et la Côte d'Ivoire ont fait une prestation plus que médiocre. Et voilà, à ce moment-là, lui, c'était le chef d'État. Et dès que les Ivoiriens sont rentrés en Côte d'Ivoire,
ils sont descendus dans la base militaire.
Ils sont descendus directement dans la base militaire.
Ouais.
Et pendant 3 jours, ils y étaient en train de faire des travaux forcés. Et il leur avait prévenu qu'une prochaine. Une prochaine fois, si ça se renouvelait, que ça serait encore plus grave si c'est lui encore qui est au pouvoir.
Ils étaient précisément à la base militaire de Zambakro, pas très loin.
C'est pas de la pression.
Voilà.
Non, mais je pense aussi, juste pour revenir à la pression, parce que j'ai fait aussi du sport plus des arts martiaux et à un certain niveau de compétition. Et je pense que peu importe la compétition, dans le sport ou même dans la musique aussi, c'est-à-dire que la dimension aussi de l'événement et tout ça, ça te met une espèce de, bien sûr, positive, hein, parce que de toute manière, si tu y vas, c'est que tu as envie d'y aller, tu es motivé, tu t'es préparé pour. Donc ça, on est d'accord là-dessus. Mais il y a quand même cette espèce de, nous, on peut appeler ça le trac ou un truc qui fait que des fois, ça peut arriver que tu perdes tes moyens.
Tout à fait. Tu vois, t'as des personnes que ça booste, tendance à inhibe.
Voilà,
on le vit pas pareil. Voilà,
tu vois, et je pense que pareil. C'est assez. Il y en a qui ont un mental qui arrive justement à surmonter ça.
Il y en a qui ont même besoin de ça.
Et il y en a qui ont besoin de ça justement pour se stimuler, pour mettre le feu. Et après, il y en a malheureusement qui se laissent.
Donc c'est relatif.
De tout ce que par la pression et qui des fois perdent leurs moyens.
De tout ce que vous venez de dire, je vous ai écouté, mais quand on regarde l'équipe elle-même, le gardien de but, hein, les buts qu'ils prennent. Quelle est la pression? Ils sont pas bons.
Ah ouais, après, il y a aussi le
côté. Ils sont pas bons.
Purement technique. Et puis
ils sont pas bons. Il faut reconnaître.
Ça, c'est encore autre chose. On avait ouvert une parenthèse pression. On s'était donc arrêté là-dessus. Les amis, on va progresser quand même. Hein, parce qu'Abou a travaillé. Abou, on va parler de la Coupe de France?
Oui.
Oui, on y va.
On y va direct.
Ouais, ouais, on y va.
Alors, Rennes a éliminé Marseille au tir au but et s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France ce dimanche, alors que Reims et Toulouse sont tombés contre deux équipes de National, Sochaux et Rouen. En ouverture, Lyon a battu 2-1 la modeste équipe de Bergerac, National 2. C'était la quatrième fois que les footballeurs bergeracois se hissaient à ce stade de la compétition en 8 ans. Face à un Nantes trop maladroit devant le but, Laval a réalisé samedi à la Beaujoire le coup parfait en portant l'estocade à l'heure de jeu, se qualifiant pour les huitièmes de finale. Nice s'est également qualifié en s'imposant 3-2 sur le terrain de Bordeaux. Monaco s'est offert une revanche sur Rodez 3-1, club de Ligue 2 qui l'avait sorti de la compétition l'an passé. Le Paris Saint-Germain, après avoir étrié Revel 9-0 au tour précédent, n'a pas fait dans la dentelle et a sorti Orléans en s'imposant 4-1 face à Orléans. De leur côté, Brest a battu Trélissac 2-1 et Valenciennes s'est imposé sur le Paris FC sur le même score. Idem pour le Puy du Foot qui s'est imposé 2-1 sur Dunkerque. Dimanche, le tenant du titre de la Coupe de France, Toulouse, s'est fait sortir par Rouen, équipe de National, lors d'une séance de tirs au but interminable, 12 tirs au but à 11, 3-3 à la fin du temps réglementaire. Reims, autre pensionnaire de Ligue 1, n'a pas résisté à Sochaux, également National. Et là encore, au tir au but, Strasbourg, en revanche, s'est qualifié après sa victoire aisément obtenue chez le Clermont Foot. 3-1. Lille s'est pour sa part qualifié dans la douleur contre le Racing CF, équipe de National 2 à Chambly. 1-0 le Havre également sur le même score à Châteauroux, formation de National. Une autre surprise est venue de Saint-Priest où le petit poussé de National 3 a éliminé l'équipe de National 2 de Romorantin. 4-1. Par ailleurs, le match entre l'Entente, Feigne, Aulnois, National 2 et Montpellier a été reporté de samedi à mercredi à cause de la neige qui a rendu la pelouse de Maubeuge impraticable. Les huitièmes de finale proposeront des affiches 100% Ligue 1. Le PSG affrontera le Stade Brestois, surprenant troisième du championnat. L'OL recevra le LOSC pour une affiche équilibrée sur le papier et Strasbourg sera opposé au Havre. Il y aura même potentiellement 4 duels entre formations de l'élite puisque l'OGC Nice affrontera le vainqueur du match entre Montpellier et l'Entente, Feigne, Aulnois qui se jouera mercredi. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, quatrième de Ligue 1, l'AS Monaco se déplacera à Rouen, club de National, un tirage plus qu'abordable, même si les Normands ont éliminé le tenant du titre, Toulouse, en 16e de finale, au terme d'une séance de tir au but. Comme je vous le disais tout à l'heure, tombeur de Reims, le FC Sochaux recevra le Stade Rennais, vainqueur du FC le Stade Rennais qui a battu l'OM hier, pardon, vainqueur du FC Nantes dans un duel de l'Ouest. Le Stade Lavallois a aussi hérité d'un bon tirage sur le papier pour espérer rejoindre l'écart. Les Tangos se déplaceront au Puy du Fou. Enfin, le surprenant petit poussé l'AS Saint-Priest qui espérait défier une équipe de Ligue 1 aura une belle occasion de rejoindre l'écart contre Valenciennes, club de Ligue 2, même si la tâche sera ardue pour le club de la banlieue lyonnaise.
La Coupe de France, les amis, qui c'est qui a suivi les matchs? Tu regardes la Coupe de France?
Moi j'ai suivi un peu parce qu'il y avait deux équipe des Antilles qui était par contre le score était salé.
C'est souvent le cas, malheureusement. Le voyage est... le retour est long après, hein.
Donc, il y a une de nos équipes qui a joué contre Lille, donc il y avait une équipe de la Guadeloupe, il y avait aussi la Martinique, je crois qu'il y avait même la Guyane, et il y avait des bus qui étaient affrétés, je crois, qui allaient à Lille ou je sais pas où. Malheureusement, ben
ça a été salé. Voilà. Darius, la Coupe de France.
J'étais à Chambly avec donc d'autres membres de
Rennes. Ah, t'as été?
Ouais, on a fait une vidéo sur le match et donc les supporters du Racing. Et c'était un match très sympa. Franchement, le Racing, ils ont fait une très bonne prestation. Ils ont vraiment rendu la tâche difficile pour Lille. Et surtout, il y avait une super ambiance donc dans le stade de Chambly parce que donc le stade du Racing est sous construction pour les Jeux Olympiques. Et donc super ambiance, vraiment des ultras très accueillants qui ont vraiment donné beaucoup de voix du début jusqu'à la fin. Et moi, ce que je retiens surtout de ce match, c'est Lenny Oro, Ce joueur vraiment m'impressionne énormément. Je pense que voilà, dans quelques années, il fera partie des têtes d'affiche. Il aura son transfert dans
l'Europe.
On
va dire qu'il a du potentiel.
Ah, il a un énorme potentiel.
Parce que les joueurs comme ça, on en a vu. Hein.
Non,
qui ont disparu après en cours de route.
Non, mais des défenseurs centraux avec un profil aussi impressionnant, parce qu'il est très jeune quand même, 2005.
Tu te rappelles de Gnagnon ?
Non.
Qui jouait à Rennes ?
Non.
Ben, c'était un gros espoir. Je peux t'en citer
qui s'est perdu à Séville.
Qui s'est perdu et qui est en procès aujourd'hui avec son club. Je peux t'en citer des milliers comme ça.
On verra, parce qu'au-delà de ça, il fait quand même une super saison là avec Lille. Mm-hmm. Et son match, voilà, il a absolument... rien à redire dessus, juste c'est un défenseur voilà, extrêmement rapide qui a beaucoup d'intelligence.
C'est quel profil ? Tu peux le comparer à quel grand ?
C'est dur de le comparer, mais je peux te le décrire un petit peu. Donc déjà, il est très grand, très, très mince, très rapide, et il a un peu ce gène de voleur, dans le sens où il va pas faire un tacle rude où il va te mettre au sol, il va juste te chipper la balle avec ses longues jambes.
C'est feu Beckenbauer ça.
Là la comparaison est un peu dure et je souhaite en tout cas, mais ouais, il a un profil extrêmement intéressant, et voilà, match très sympa, et je recommande voilà de se déplacer pour aller voir des matchs de Coupe de France.
Les amis, Coupe de France, hein, laquelle des affiches a retenu votre attention, Eladj?
Paris Saint-Germain-Orléans.
Alfred, dans le micro s'il te plaît.
Paris Saint-Germain-Orléans. Oui. Il n'y a pas eu de cadeau pour
le doublé de Mbappé.
Voilà,
c'est un peu facile pour lui, non?
Oui, après voilà, c'est Paris, et puis bon, ben voilà, c'est une petite suprématie. Après, les autres clubs, ils arrivent comme ça, juste c'est une chance. On arrive,
mais ça jouait pas mal en Orléans, cela dit.
Oui, dans le passé, c'était une bonne équipe, hein. Après, ouais, parfois ça bouge, ça descend, mais voilà, ils se sont bien comportés quand même.
Chakenza, tu as regardé la Coupe de France? Est-ce qu'il y a un match qui a retenu ton attention?
Bon, sincèrement, je l'ai pas regardé parce qu'avec cette canne là, j'ai pas eu le temps de regarder, mais je sais qu'il y a pas mal d'équipes vraiment qui ont fait des... J'ai pu regarder les résultats, mais pas le contenu, pas les matchs. J'ai vu quelques équipes vraiment qui ont eu à faire des surprises et tout ça, des équipes qui ont eu à monter en puissance.
Et toi, Eladj?
Oui, moi j'ai eu le temps de le regarder. J'ai regardé un Marseille-Rennes, oui, pardon. Marseille-Rennes avec Bourigeaud qui rate.
Rennes-Marseille plutôt.
Ouais. Oui, Rennes-Marseille avec Bourigeaud qui rate son penalty juste avant la mi-temps, avec un joli but de Veretout. Mais on n'a pas senti Marseille dedans. À part le but, Marseille n'était pas au niveau. Hein. Ils n'étaient pas au niveau.
Mais première mi-temps, encore ça allait. En elle-même n'était pas.
Ça allait, bon. C'était un match de Ligue 1, ça allait. Voilà, on sait très bien, le niveau n'est pas très très haut, mais voilà, ça allait quand même. Deuxième mi-temps, Rennes ont proposé beaucoup plus de choses quand même. Voilà, moi j'ai aimé ce que Rennes ils ont proposé. Ils ont eu un sursaut d'orgueil. Et franchement, non, ça a été un bon match. Après, voilà, comme d'habitude, Marseille se font sortir au tir au but. Voilà, après, il n'y avait pas de surprise, quoi. Voilà.
À bout, et toi-même, hein, regarder un des matchs justement
avec la CAN, c'est compliqué de suivre, mais pareil, moi j'ai regardé Rennes Marseille hier. Mm-hmm. Et ouais, c'est un match moyen de deux équipes moyennes, ni plus ni moins. Ça s'est qualifié au penalty,
tir au but.
Voilà quoi, il n'y a pas une équipe à blâmer plus que l'autre.
Mais Stéphane est avec nous.
Oui, tout à fait. Ouais.
Un point sur la Coupe de France, est-ce que tu as regardé un match en particulier?
J'ai regardé pas mal de matchs de la Coupe de France, ou des extraits de matchs et tout. Et on en parlait tout à l'heure avec Philippe. Moi, je trouve qu'on a vu surtout la résurrection, mais le retour par rapport en plus au précédent tour de ce qui fait un peu la magie de la Coupe de France. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a quand même eu des histoires, il y a quand même eu des séances, il n'y a pas forcément eu du très très beau jeu, mais il y a eu plein de choses intéressantes. Et comme j'étais en retard pour faire mon 30 secondes chrono, j'en avais un, je voulais faire, donc je vais mettre à l'honneur là, un joueur qui s'appelle Amédé Kabongo, que je ne sais pas si vous le connaissez, qui joue à Rouen, qui est défenseur à Rouen depuis cet été, qui a 23 ans, mmh, et qui a fait son tir au but dans la série qui s'est terminée à 12-11 pour Rouen, avec le tendon d'Achille rompu. C'est-à-dire qu'il était blessé, il n'y avait plus de changement, donc ils ont fait l'erreur de le laisser sur la pelouse, ils auraient dû le sortir, parce que donc, comme il était sur la pelouse à la fin du match, il était donc dans les tireurs penalty, donc il a tiré en tant que 11e ou 12e, ou, ouais, en tant que 11e tireur, le dernier des tireurs, il est arrivé en boitant en faisant un peu chambrer et tout, il a mis son tir au but. Et après, il y a eu diagnostic après, rupture du tendon d'Achille. Ah ouais, donc je trouve ça assez exceptionnel et ça symbolise un peu cette coupe. Maintenant, je crains que le grand perdant de la coupe ait été l'Olympique de Marseille, quoi, qui avait vraiment c'était sa dernière chance de faire quelque chose d'intéressant cette saison, selon moi. C'était de s'offrir un parcours en Coupe de France, quoi. Et en perdant à Rennes, ça va maintenant la saison, à mon avis, je l'annonce très très compliquée. Bon, ils vont se concentrer peut-être sur la Ligue Europa, mais ça va être très très compliqué.
C'est sûr. Mon cher Abou, hein, on va enchaîner tout de suite avec toi pour parler de Bundesliga. Hein, le Bayern Munich relégué provisoirement à 6 points du Bayer Leverkusen avec un match en moins. Les hommes de Xabi Alonso, l'entraîneur, sont quant à eux invaincus avec 15 victoires et 3 nuls en 18 journées de championnat. Le Bayern de Tourelle et Harry Kane a-t-il d'ores et déjà perdu le titre?
Et c'est la grande question, hein. Et si le Bayern Leverkusen remportait la Bundesliga, comme tu le disais Malik, après 18 journées, le leader du championnat n'a perdu aucun match et compte 6 points sur le Bayern Munich, et le Bayern qui a un match en retard. Si Victor Boniface et Florian Wirtz sont les protagonistes sur les terrains de ces 4 premiers excellents mois, Xabi Alonso en est la tête pensante. En un an et demi, l'entraîneur espagnol de 42 ans a transformé cette équipe, alors qu'il ne s'agit que de sa première expérience sur le banc d'une équipe première. Il avait déjà dirigé l'équipe B de la Real Sociedad de 2019 à 2022. Ancien milieu de terrain, un succès hein, qu'on connaît, déjà remarqué pour son sens tactique, que ce soit en 6, en 8 ou en 10. Xabi Alonso fait briller Leverkusen avec un style de possession offensive. Il n'est pas question de tiki-taka pour celui qui revendique une grande influence allemande. Son équipe joue haut, s'est pressée et aime les longues séquences de passes dans la moitié de terrain adverse. Les joueurs évoluent dans un 3-4-2-1 qui se module en 4-2-3-1, mais parfois aussi dans d'autres schémas en fonction de l'adversaire. Tactiquement, il s'agit d'un des projets les plus excitant du gratin du football européen, le Bayern Leverkusen, hein, comme je vous le disais, n'a plus perdu depuis 18 rencontres en championnat, mais depuis 28 rencontres, toutes compétitions confondues.
Mon cher Alfred, le spécialiste de la Bundesliga, dans le micro, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Il faut féliciter le travail de Xabi Alonso. Et puis, bon, Leverkusen joue très bien en ce moment. Mais pour l'instant, il faut être un peu réservé, il faut patienter un peu parce que ce n'est pas encore terminé. Il y a le Bayern qui est un grand club, un match en moins. Hier, c'était la grosse déception par rapport au Bayern. Mais je pense que pour l'instant, il faut patienter. Moi, pour moi, le Bayern peut devenir champion.
Ça va faire, ça aura de la gueule, hein, si j'ose dire. Hein, le Bayern Leverkusen, champion d'Allemagne. Ça va être un joli championnat.
Après,
Moi, ça fait plusieurs saisons déjà que je vois le Bayer Leverkusen. Moi, je suis pas fan spécialement de cette équipe-là. Enfin, de la philosophie de ce que Xabi Alonso apporte à cette équipe et l'équipe, comment elle joue. Avec notamment les deux pistons, comment il fait jouer Frimpong et Grimaldo. Mm-hmm. C'est incroyable. Il leur a fait monter d'un niveau vraiment supérieur. Mm-hmm. Et tu vois cette équipe-là jusqu'à la dernière seconde, parce que là, ça fait deux matchs qu'ils gagnent dans le temps additionnel. Mm-hmm. Ça, c'est le chemin des grands. C'est le chemin des grands. Et là, ils sont à 7 points du Bayern Munich. 7. Ils sont à 7. Ils sont
6,
à 7 points.
C'est 6, c'est un match en moins, non, pour
41-48.
Pour Munich.
41-48. Ils sont à 7 points. Oui, ils sont à 7 points. Ils sont à 7 points du Bayern Munich. Bayern Munich qui ont un match en retard, mais. Franchement, dans ce qu'ils proposent, moi je pense que Bayer Leverkusen, ils y vont, c'est tout droit. Parce que Bayer Leverkusen, ça n'est pas Dortmund. Dortmund, c'était beaucoup plus fébrile. Maintenant, on a vu que leur meilleur attaquant, Boniface, qui est l'un des meilleurs buteurs du championnat, il fait partie du top 4 ou top 5, en tout cas, si je ne me trompe pas. Et Boniface est blessé. Malgré ça, Patrick est revenu de blessure. Il reprend après la succession, même s'il n'a pas marqué.
En plus, je crois qu'ils ont leur défense axiale. Hein, qui
après,
est
moi, je t'invite à patienter un peu. Parce que la rencontre. Leverkusen Bayern, c'est ça, ce serait la décision par rapport au titre. Hein.
Oui, match. Voilà. Mais non, pas spécialement. Il y a 7 points d'écart. Même s'ils gagnent le match en retard qu'ils ont le Bayern, ils auront 4 points d'écart. Même s'ils les battent, ils auront quand même un point d'avance le Bayern Leverkusen, en sachant que le Bayern va encore faire des fautes. En tout cas, je pense qu'ils vont encore faire des fautes.
C'est ton souhait.
Et non, c'est pas mon souhait, absolument pas. Je pense, et parce que je pense pas qu'ils vont faire un 7 sur 7 ou un 12 sur 12, un truc comme ça. Je ne pense pas. Et Leverkusen de l'autre côté, pareil.
Mais moi,
je pense
de toute façon, le Bayern de Munich ne semble pas
non, bah oui, ils ont joué déjà contre Leverkusen, ils ont fait un match nul. 2-2, et ça a été.
Moi, je pense que vraiment, je pense que le Bayern Leverkusen, ils ont toutes les chances de gagner. Mais le problème, c'est de ne pas retrouver dans la travers de Dortmund. C'est-à-dire, dans les 5 dernières journées, de ne pas perdre de match, de rester concentré. Parce que là, comme il a dit Alfred, si le Bayern Leverkusen arrive à prendre le dessus face au match face au Bayern, ça serait une ascendance psychologique. C'est-à-dire déjà, on est un concurrent direct, on est un concurrent, vous êtes un concurrent direct au titre, je vous bats vraiment. Ça montre que vraiment, oui, que j'ai une longueur d'onde. Ça montre que vraiment, oui, que là, vraiment, je suis là pour tout écraser. Ou soit on fait un match nul, ça montre que vraiment, j'arrive à conserver vraiment le nombre de points. C'est de rester... l'équipe, faudrait que l'équipe reste dynamique jusqu'à la phase du championnat. Parce que, oui, on a vu un Dortmund qui perd le championnat à deux journées de la fin, ou à une journée de la fin par moment. Donc, soit on reste concentré jusqu'à la fin, soit on décide de ne pas y aller. Il faut, c'est comme ça. Soit on se met dans une dynamique... que oui, chaque match, on va prendre chaque match avec sa réalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore champion, on est devant, mais il va falloir battre jusqu'au bout.
Merci à Chakenza pour cette précision. Darius, le Bayer Leverkusen,
ouais, réaction là-dessus. Ils sont tout simplement extrêmement impressionnants. Abou l'a dit, un des projets les plus excitants là, dans toute l'Europe. Le truc, c'est que je suis aussi d'accord avec Alfred, c'est que c'est trop tôt. On a vu le Dortmund qui a perdu la dernière journée l'année dernière. Le Bayern, c'est quand même une machine. C'est une machine à remporter des matchs et surtout des trophées, et surtout des Bundesliga. Ça fait 10 ans de suite qu'il la gagne. C'est dur de dire c'est que bon là, c'est déjà gagné pour Leverkusen. Par contre, pour moi, c'est un peu leur dernière chance. Enfin, dans le sens où c'est pas une équipe qui a l'ambition d'être... Qui a l'ambition de se maintenir à long terme, je pense.
Merci Darius pour tes lumières. On va conclure justement cette émission avec notre invité Tiwoni. Tiwoni, yeah. Hein, en concert le 9 février prochain. La salle, c'est Élysée Montmartre. Tiwoni, qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour inciter toutes celles et tous ceux qui hésitent encore à venir? Est-ce qu'il y a un truc là?
J'invite à tous ceux qui aiment s'ambiancer sur les bonnes vibes, qui aiment mouiller le maillot, à venir justement et découvrir aussi mon univers pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour ceux qui connaissent, ben ça va être une synthèse de toutes ces 20 années. On vous a préparé ça vraiment aux petits oignons. Donc, c'est la première fois aussi que... nous, on prend le temps aussi d'emmener un spectacle à cette dimension-là. Donc, pour ceux qui m'ont même déjà vu sur scène, c'est la première fois qu'ils vont me voir aussi comme ça. On leur a préparé quelque chose de différent. Donc, voilà, c'est l'occasion de me découvrir, de me redécouvrir et puis de venir passer un bon moment, tout simplement, quoi.
Avec merci, des bonnes vibes et des bonnes fréquences. Merci, et puis on te souhaite un plein succès.
Merci
comme
beaucoup.
Comme toi-même, tu dis, les fréquences sont là, good vibes, justement.
Ça, et longue vie à mon Paris FM.
Merci, c'est très gentil de ta part. On va remercier notre ami Stéphane Desenclos du quotidien du sport, à retrouver sur internet notamment avec de bons articles, avec pas mal d'infos, le quotidien du sport.fr. Jason Lindor réalisé au bout du foot de ce soir. Merci Eladj, merci à
Malik,
vous.
Je voulais juste rajouter un petit truc. Oui. Comme on est toujours en direct et la CAN se joue, c'est la mi-temps, le Cap Vert sont en train de gagner 1-0. Du coup, l'Egypte ont 2 points et la Côte d'Ivoire, là, font partie des meilleurs.
Le
3e.
Cap Vert mène l'Egypte 1-0, sans Mohamed Salah qui est retourné à Liverpool et qui attend que ses amis se qualifient éventuellement pour une demi-finale pour venir justement éventuellement soulever la coupe et repartir. C'est le foot moderne. Oui, rapidement, Chakenza.
Quoi qu'il arrive, même si la Côte d'Ivoire, vraiment, ils sont meilleurs 3e ou pas, on n'a pas vraiment les jambes.
On a fini.
On n'a pas les têtes vraiment pour
Alfred. Chakenza, on a fini. On va remercier Alfred, on va remercier Darius. Merci Darius. La prochaine fois, on parlera Première Ligue.
Merci
Et puis, remercier également Ibrahima. On se donne rendez-vous lundi prochain. Salut. Merci à Stéphane. Entirely, that's why they bring the fire in. Mentally, physically, I attract it out to silence. Don't give up me. Tell them, run to jail. Don't give up one, leave up, don't give up one, leave up, don't give up. Tell them, run to jail. We not give up, we not give up. Tell them, run to jail. Natural is the way to go. And I give us more than what we can be.
Give up, we are leave up, we not give up, it's a